C'est l'équipe du soir, bonsoir, ravi de vous retrouver. On va parler dans quelques instants de cette rencontre entre Metz et Lens. Résultat surprise, victoire des Messins avec un doublé magnifique de Miko Tadze. Je vous conseille de rester parce que les buts sont sublimes. On parlera aussi de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain, sa relation avec Luis Enrique. On reviendra sur l'Olympique de Marseille qui a perdu hier face au Benfica Lisbonne. Mais l'excellente saison de Pierre-Emerick Aubameyang, est-ce qu'elle sauve la saison des Olympiens? On aura l'occasion d'en parler. Pour m'accompagner ce soir, un casting de choix, la présidente et la Diana Ross. Yann Hidalgo.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Moi aussi, du basket, qui a gagné ce soir.
Tout à fait. Alors, j'y connais. Enfin, le basket, c'est le sport avec le gros ballon orange.
Et a priori, c'est ça.
Ouais,
a priori,
d'accord.
C'est ça.
Bon, de loin,
en forme, la présidente, elle sera meilleure sur le foot, je vous promets.
On va essayer.
Dans votre vie de ce soir, vous avez le man in black de l'équipe du soir, c'est Grégory Schneider. Bonsoir, Greg.
Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir à tous. Bonsoir.
J'ai l'impression que vous étiez un peu messin ce soir.
Je dois dire que. Oui.
Oui,
totalement. Sans offenser les Lensois.
Ouais, c'est fait.
Je pourrais expliquer pourquoi, parce que je.
Non, mais là, on n'a pas le temps, pardon. Et je voulais juste vous dire que votre chemise n'était pas repassée, mais on vous aime quand même. À vos côtés, le chilien de l'équipe du soir, c'est Hugo Guibet.
Salut Giovanni.
Toujours
salut,
bien coiffé, bien rasé, impeccable.
Ouais, bah c'est.
Beau gosse, quoi.
Je laisse les cheveux naturels, comme ça.
Ouais.
Finalement, c'est bien coiffé.
Le côté sel et poivre. Georges Clooney. On devrait vous appeler Georges Clooney aussi. En face de vous, c'est le commissaire Valentin de l'équipe du soir, Guillaume Dufy. Bonsoir, Guillaume.
Bonsoir, Giovanni. Vous allez bien?
Très bien. Vous êtes bien coiffé aussi?
Je sais pas, on peut pas vraiment dire ça, je pense.
Bon, mais si, quand même.
Les cheveux sont libres comme l'air. Bah, moi aussi, je suis très content.
Vous allez faire une bonne émission, il paraît. Vous êtes inspiré par les thèmes du soir.
Ah oui, j'étais en colère.
Gardez votre colère, on aime bien ça. Et enfin, pour compléter ce merveilleux casting, c'est le professeur de l'équipe du soir, Dave Appen.
Bonsoir. Giovanni, personne ne peut venir vous matcher, question cheveux.
Ah, écoutez, j'essaye.
Alors, je suis fan.
Mon père, l'autre jour, m'a dit que j'étais atrocement coiffé devant le Parc des Princes, donc j'ai essayé de faire un effort.
Ah, bah là, il va être fier de vous, là.
Ma vie, on s'en fout, on va passer à la star de la soirée, c'est Romain Aran, qui sera aux infos.
Là, on est là.
Voilà. Le journal du art, avant d'avoir votre moment de gloire, mon cher Romain, les images de la rencontre entre Metz et Lens.
Bonsoir Giovanni, bonsoir tout le monde. Effectivement, Metz a battu Lens ce soir 2-1, une victoire qui va faire beaucoup de bien aux Messins. C'est pourtant Sotoka qui avait ouvert le score pour Lens, mais un doublé de Miko Tadze derrière, superbe enchaînement dans la surface pour égaliser. Et dans les arrêts de jeu de la première période, il va profiter d'une perte de balle de David Pereira da Costa et d'un subtil ballon piqué. Il va donc offrir la victoire aux Messins. Les Messins qui remontent à hauteur de Lorient, le barragiste. Ils sont toujours 17e et avant-dernier, mais ils sont revenus à hauteur du barragiste et Lens est 6e.
Un très très bon résultat pour les hommes de Laszlo Bologna. But magnifique. On aura d'ailleurs l'occasion de faire un petit débat image tout à l'heure sur lequel de vous préférez. On va s'intéresser à Lens forcément parce que c'est une terrible désillusion. On ira dans quelques instants du côté de Metz pour retrouver Georges Quirino. Mais avant, la question est simple. Lens a-t-il dit adieu à la C1? Habillage à la lensoise. Guillaume?
Je dirais oui.
Oui. Avec une conviction. Non, mais oui,
je vais être cohérent avec ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour moi, le top 4 était déjà, gravé dans le marbre, donc je vais pas
donc
changer.
Oui pour Guillaume. Dev?
J'ai pas attendu ce match pour penser qu'ils avaient dit adieu à la CR.
Donc oui également.
Encore un peu plus ce soir.
Greg?
Non.
Non.
Ah, mais il est cohérent avec ce qu'il a dit la semaine dernière aussi. Donc,
Hugo, attention.
Ouais, mais on a une nouvelle.
Ah, vous voulez que je fasse vivre l'émission?
Bah, non,
je
pense que ce soit.
Dis-moi la réponse, que tu sois intellectuellement honnête, comme tous les gens sur le plateau.
Je vais être honnête intellectuellement, oula, comme toujours. Ouais. Et Lens a dit adieu à la saison, évidemment.
Ah, bon. Alors, ça sera.
Un duel simple.
Un duel simple. Siani, vous pouvez appeler le jingle, comme vous voulez.
Jingle.
Vous pouvez faire un mouvement de main. Je sais que vous aimez bien faire des mouvements. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre. Donc, Greg a dit non. Qui voulait affronter Greg?
Oh, c'est à vous de décider.
D'accord, bon, je vais choisir Dave Apadou.
Qu'est-ce qui est sympa,
pour vous. Est-ce qu'on est prêt en régie, mon cher Jacouille? Magnifique. C'est Dave Apadou qui va affronter donc Grégory Schneider. Greg, vous m'avez répondu non, ils n'ont pas dit adieu à la C1, les Lensois. On vous écoute.
Il reste 6 matchs, c'est ténu, mais je ne peux pas me résoudre à dire que ça s'arrête ce soir. Je trouve que Lille, alors bon, parce que je veux parler d'équipes qui sont dans le top 4 et que tout le monde va dans le top 4, je trouve que Lille laisse beaucoup de gomme. Ils jouent chaque match contre des finales, ils ont la Coupe d'Europe derrière et leur place dans les 4 ne semble pas garantie à 100%, tout comme celle de Monaco ne semble pas non plus gravée dans le marbre. C'est une équipe irrégulière qui peut perdre des points. Donc je peux pas faire une croix sur la compétition. On va vers ça, si vous voulez mon sentiment profond. Mais dire on ferme et mettre le double tour de clé, non.
La réponse de Dave Apadou.
Oui, parfois faut apprendre à faire le deuil, parfois faut apprendre les maths aussi. Il reste 5 journées pour les Lensois et non pas 6. Et puis les Lensois ont abdiqué et ils l'ont abdiqué par la voix de Francaise. C'était déjà le cas la semaine dernière. Il avait dit de toute façon la Ligue des Champions c'est pas pour nous, il nous manque trop de choses. Ce soir contre Metz, évidemment que c'était ta dernière occasion de faire le plein de points. Tu perds et surtout, non pas seulement tu perds, tu sombres parce que en fait ce match il est logiquement gagné par Metz. Metz qui ne bat plus personne depuis des semaines, qui ne met plus un pied devant l'autre, qui a marché sur Lens, c'est fini.
Attention Dave, c'est pas parce que je vous aime particulièrement que vous avez le droit de dépasser le temps. Là c'était limite, c'était
vous
limite.
Vous m'aimez particulièrement.
Oui, vous êtes un brillant chroniqueur.
M'asseoir.
M'asseoir. J'ai même pas besoin de verdict là.
Si vous pensez que Lens a dit adieu à la Ligue des Champions, vous votez pour Dave Apadou.
Il est outré par
moi. Non.
Non, il est pas par ça.
Il est pas, ah, pas par ça. Ah, bon. Par la remarque sur les maths, je suppose. Non, mais ça sera pas le débat.
Peu, mais
si vous pensez que
on peut dégainer les diplômes, on va s'amuser 5 minutes.
Ah, mais ça. Oh là 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 là. Oh là là là.
Je ne regrette pas d'avoir fait
le déplacement
sur le Masters d'Augusta. Pour au moins avoir entendu cette remarque.
Pas tous en même temps.
C'est pas comme si j'avais pas une maîtrise d'économétrie. Comme
mais pas de souci. Alors, en revanche, Greg, de dévoiler le CV comme ça, c'est pas franchement ni le lieu ni l'endroit. On est fiers de vous. Il y a pas de souci. Combien de points, Guillaume?
Pas beaucoup. Non, je l'ai encore, mais pas pour longtemps.
Pas pour beaucoup. Bref, donc si vous pensez au contraire que Lens n'a pas dit adieu à la C1, c'est pour Grégory Schneider. Vous allez sur l'équipe Connect pour voter. Dans des conditions pas faciles, ma chère présidente, vous allez devoir arbitrer.
Malgré la maîtrise d'économétrie, je ne sais pas si c'est ça. Mon point ira à Dave Apadou, je suis assez d'accord avec lui. En fait, dans le contenu du match, on se demande comment Lens va pouvoir finir cette saison. En fait, il n'y a plus rien. Y a, franchement, ils n'ont plus d'essence. On sent qu'il n'y a plus ce feu qui a animé cette équipe lensoise. Et ils avaient très mal commencé la saison. Ils ont eu un rebond, un sursaut, et puis là, ça commence à redescendre. Donc, vraiment, je pense qu'ils vont peut-être jouer une place européenne, mais pas la Ligue des Champions.
Pour vous, c'est trop court. Ouais. On va prendre tout de suite la direction de Metz et retrouver notre envoyé spécial. C'est Georges Quirino qui est avec Patrick Muller, si je ne dis pas de bêtises. Il y a quelque chose que j'ai noté dans l'argumentaire de Dave Apadou, en dépit de ses diplômes ou non. Juste par rapport au match de Metz, quand il dit la victoire est logique, pour vous aussi, la victoire des Messins, elle est totalement logique?
Salut les amis, bonsoir à tous. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec Dave. On va dire qu'il y a eu une première demi-heure où les Messins ont été assez inoffensifs et les Lensois ont eu le ballon et où ils ont mené 1-0 grâce à ce penalty concédé par Oukidja. Et après, à partir de l'égalisation messine, alors ils ont éteint la lumière, ils ont plus produit grand-chose. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez bien, ils n'ont pas eu vraiment d'occasion franche hein, dans cette rencontre. Il y a juste en deuxième mi-temps la sortie complètement hasardeuse d'Oukidja et Thomasson qui tentent de le lober. Sinon, il n'y a pas eu de situation où ils ont vraiment réussi à construire quelque chose pour mettre en danger les Messins. Il y a eu cette situation à l'heure de jeu où on sent que Franck S sait plus trop quoi faire. Il rentre 4 joueurs, c'est quand même suffisamment rare pour le signaler. Il y a 5-10 minutes où il relève un petit peu la tête, mais derrière ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de véritable réaction. J'ai vu une équipe messine qui jouait vraiment pour quelque chose, pour le maintien. J'ai vu une équipe lensoise qu'on a tellement habitué à voir rock'n'roll l'année dernière, qui était avec une partition le plus calme possible. Donc voilà, oui, c'est vrai que moi je les vois plus vraiment jouer la C1. C'est quand même leur 4e match sans victoire. Et pour rebondir sur ce que disait Dave, moi je m'interroge vraiment aussi sur la communication de Franck Hez. On le met tout le temps en valeur sur le fait qu'il parle bien depuis des années. Mais moi, la séquence où il décide de dire que finalement la C1 c'est plus pour nous, il y a une forme de résignation là-dedans. Je me demande si à 6 matchs de la fin de la saison, c'était vraiment le moment de dire ça en fait, et de dire finalement à ces joueurs, regardez, on n'a pas le budget aussi, et finalement si on finit pas très bien, c'est pas très grave parce qu'on a notre place, on a une saison difficile. Donc je m'interroge sur tout le contexte soir et je les vois pas très bien finir la saison.
Merci Georges, votre interrogation fait réagir en plateau. Guillaume, vous comprenez en fait.
Le contexte lensois est complètement différent de la communication de Francaise. Il a raison Francaise. Lens est à sa place. Ce qu'on a vécu l'an dernier, c'est exceptionnel. C'est pas la réalité, c'est un exploit sur une saison. Moi je trouve que Lens aujourd'hui 6e ou 7e, c'est déjà merveilleux avec un parcours de Ligue des Champions plutôt correct. On a quand même salivé autour de cette table sur leur performance de début de compétition européenne. Souvenez-vous, ils ont été longtemps dans la charrette. Ils ont réussi à rehausser leur niveau de jeu pour être confortablement installés dans la première partie du tableau. Moi, je trouve que s'ils terminent 6e, 7e, c'est leur place. C'est la 8e masse salariale. C'est leur place. Francaise, il a raison. Il est totalement honnête. Il faut arrêter de faire croire aux gens
aux supporters lensois que Lens a les moyens humains, financiers de réitérer la saison de l'an passé. C'est pas vrai, il faut être réaliste et il faut dire la vérité aux gens.
Voilà. Georges, vous vouliez répondre?
Non mais moi je suis pas du tout d'accord parce que en fait est-ce que vraiment c'était nécessaire de faire ça à 6 journées de la fin dans une saison où émotionnellement ils ont déjà fait les montagnes russes, ça a été dur en Ligue des Champions, ça a été dur ensuite à Ligue Europa, ils sont passés par toutes les émotions, de là leur dire à 6 journées de la fin bon ben c'est bon les gars finalement vous avez fait le maximum, est-ce que c'était vraiment le moment quoi, est-ce qu'on pouvait pas attendre à 2 ou 3 journées de la fin finalement pour avoir ce discours, pour maintenir encore les joueurs à flot? Là on a vu une équipe qui finalement avait pas grand chose à jouer en fait, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Moi c'est sur ça que je m'interroge vraiment, c'est est-ce que c'était le moment de cette communication qu'ils soient à leur place? Oui, certainement, mais pour maintenir ces joueurs on va dire focus jusqu'à la fin de l'année, pour moi il y a question.
Parce qu'il sent aussi, il est au quotidien avec ses joueurs, que ses joueurs, je pense, sont rincés physiquement, psychologiquement et pour l'instant ne peuvent plus rien donner ou donner plus que ce qu'on voit depuis quelques semaines.
Mais c'est une communication aussi qui est pour lui. Et pour valoriser son travail aussi quelque part à lui et à son staff.
Il fait ça pour lui.
Oui. Aussi pour lui, pas que pour lui.
On va reciter Jean Anouilh. Parce que écoutez la phrase de Jean Anouilh.
La sincérité est un calcul comme un autre.
Bon, voilà.
Mais c'est produit l'émission.
Bah, bien sûr que c'est produit. Ouais. Vous croyez quoi, Hugo?
Non, il le dit un peu pour lui parce qu'en fait il connaît son équipe, comme tu dis Guillaume, il sent que ça va pas faire la maille pour le podium. Et donc les gens de l'extérieur. Et en raison de l'ambiance formidable qu'il y a à Bollaert et de la manière dont ils ont fait rêver vraiment tout le pays la saison passée, etc., ils s'attendent à voir Lens sur le podium. Mais c'est absolument pas normal de les voir sur le podium. Il a pas les moyens et il a pas une équipe pour terminer sur le podium. Et en fait, cette équipe-là, elle joue bien quand elle suit super bien son plan de jeu et que tout le monde est à 120%.
Voire 130 ou 140.
Voilà. Et dès qu'ils sont à 80 ou à 90, donc en fait, des joueurs normaux. Voilà, Sotoka, Gradit, Pereira da Costa, je peux en citer plein, hein. Saïd, Frankowski.
Ça manque de
c'est
talent
pas des
quand ça va pas bien.
Voilà. Donc quand ça va moins bien, quand c'est à 80%, eh ben il n'y a pas le talent qui fait la différence qu'ont les équipes qui vont terminer. Voilà. Bon, Brest mis un peu à part parce qu'ils vivent l'aventure collective qu'a vécu Lens la saison passée.
Donc l'an passé, l'an prochain, Brest pareil. Hein, il faut qu'il soit deuxième à la fin de la saison.
Mais
si on réagit comme ça, on est en train de nous faire croire que Lens a raté sa saison.
Ils ont en ratant le début de saison, être là où ils sont, parce que début de saison, ils étaient avant-dernier, voire dernier.
Justement, si je puis me permettre, Greg, allez-y. Il ne faut surtout pas sous-estimer. J'avais travaillé sur eux en novembre et en décembre. L'impact qu'a eu le début de saison, ils ont eu très peur. Ils se sont retrouvés où rien ne marchait avec 2 points en 6 journées ou quelque chose comme ça. Et ça a créé, d'après ce que Francaise avait diagnostiqué, ça leur a mis un petit peu la peur dans la tête. C'est-à-dire que quand ils sentaient qu'en face, il y avait une équipe qui avait quelque chose, ils prenaient moins de risques dans les passes, il n'y avait plus cet talent, il n'y avait plus cette confiance. Et ils ont mis beaucoup de temps à remonter sur le cheval et ils ne l'ont jamais réussi tout à fait. Et là-dessus, il y a eu les 6 pions Arsenal. Et je peux vous dire que ça les a ravagés. C'est vraiment quelque chose pour un footballeur professionnel. Tu joues pas pour prendre 6 pions. Alors ça peut être Arsenal, ça peut être. Mais eux ne réfléchissent pas comme ça. Et je pense qu'en fait, ils ont tout à fait. Et je pense qu'ils ont. C'est un peu dans l'idée de ce qu'a dit Guillaume. Ils ont une saison compliquée. Ils ont une saison difficile qui s'est mal emmanchée. Où ils ont eu du mal. Où l'intégration de Wai a été problématique. Finir 6e ou 7e.
Non, mais indépendamment de là où ils finissent. Moi, là où je rejoins Georges par rapport à l'état d'esprit que tu dois entretenir en cette fin de saison. Moi, je pense qu'ils juste. Parce que cette intervention de Franck Haise, elle arrive peut-être même le soir même ou le lendemain ou le surlendemain d'une question, ben je crois même que c'était vous, Giovanni, qui lui aviez posé.
C'était après la défaite face à Lille.
Le problème part de Giovanni ou de Bertrand Latour.
Il a mis un rat dans la cervelle de Franck Haise parce que sa question, je m'en souviens, c'est est-ce qu'à un moment, Lens, il n'y a pas un manque finalement de talent? Et vous lui dites comme ça, Giovanni. Et lui, il n'ose pas dire manque de talent, mais il dit ouais, manque de qualité. On sent qu'il tourne autour du pot.
Avec ce qu'on a.
On fait
et moi, je le relance sur le côté, vous manque de l'argent.
Exactement. Et je pense que quand, peu de temps après, il abdique en disant bon, on est à notre place, la Ligue des Champions, ce n'est pas pour nous. Je crois qu'au-delà de dire bon, de toute façon, les joueurs sont rincés, je crois qu'il leur signifie de toute façon, vous n'avez pas le talent. Moi, je pense qu'ils le reçoivent comme ça. Parce que ça vient exactement à ce moment-là.
Non, je pense pas. Je pense que les joueurs de Lens sont aussi des garçons très sincères et honnêtes. Et je pense qu'ont un regard très.
Lucide.
lucides, oui, lucides sur ce qu'ils sont. Oui. Et je pense qu'ils doivent remercier tous les jours le staff technique de Lens.
Non, mais là, vous parlez, là, vous parlez comme si la saison était terminée.
Ah, là, vous parlez comme si la saison était terminée depuis 3-4 ans. Moi, je pense que la saison de Lens, elle n'est pas terminée, mais elle est quasi terminée.
Voilà. C'est votre avis. Juste, on a une réaction, Romain, d'Angelo Fulgini.
Oui, le milieu offensif lensois chez nos confrères de Prime Video, qui a eu des mots assez forts par rapport à ce match. On maîtrisait le match, mais on a fait n'importe quoi. On a totalement déjoué. On a fait preuve de suffisance et on se fait punir logiquement. Normalement, aujourd'hui, on doit repartir avec les 3 points, mais on n'a que ce que l'on mérite.
La preuve de suffisance, là, Siani, pour le coup, c'est une autre grille de lecture, quand même.
Bah ouais, je pense qu'ils ont joué contre le dernier et qu'ils se sont dit qu'on va pas mettre tous les ingrédients nécessaires, c'est Metz, de toute façon personne... Tout le monde... oui, c'est clairement le dernier.
Il sait compter. Et...
Non, on va pas refaire les diplômes, mais il y en a quand même.
Il a une trichronométrie...
c'est 4 ans pour dire ça.
Avant-dernier, non, mais...
J'ai attendu 4 ans pour...
Tout à fait, je pense qu'ils y sont allés un petit peu la fleur au fusil. Mais il y a un élément dont on parlait tout à l'heure, du talent de Fofana, ouais, et d'Openda, qui manque aussi, et finalement, c'est ce qui manque à cette équipe. C'est peut-être juste 2 joueurs, mais cette saison... Ils ont quand même sacrément manqué, et sur des matchs comme ceux-là, je pense qu'ils n'auraient pas perdu.
Siani, il y a juste, je trouve qu'il y a un joueur, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'on oublie assez fréquemment, il y en a un qui a disparu, c'est Abdoul Samed. Parce que Fofana était très bon, mais lui aussi, il a, c'était une des forces quand même de Lens.
Mais je me demande, et en plus, Siani, pour le coup, tu suivais à Clermont. Quand elle l'a vu avec Fofana, elle s'est dit, ben, attends, c'est pas le même joueur que j'ai vu. Et là, cette année, elle revoit un peu plus le joueur qu'elle avait vu à Clermont.
Hugo en a parlé. Ce sont des joueurs qui, à mon avis, surperforme depuis 2-3 ans. Là, la quatrième, il y a un petit coup de moins bien, mais t'es quand même sixième du classement.
Oui, c'est bien.
T'es quand même sixième du classement.
C'est quand même pas mal.
Et ils ont terminé deux fois septième avant. Franchement, ils sont dans les clous.
Ils sont dans les objectifs fixés. On va prendre un petit peu de plaisir, si vous le permettez. On va revoir avec vous, Romain, le doublé de Mikotadze, parce que là, c'était délicieux, tout simplement.
Magnifique, effectivement, pour le Géorgien. Surtout que c'est son deuxième doublé de suite. Et regardez, il y a d'abord un but du gauche après un superbe enchaînement dans la surface et la frappe en lucarne. Et derrière, sur un ballon récupéré par Endoram, hop, le petit piqué tout en touché juste avant la mi-temps. En tout cas, si Metz se sauve, ce sera sûrement grâce à Mikotadze qui a marqué déjà 7 buts depuis son retour.
Il paraît que t'as jamais sur lui.
Hugo, je sais que vous jouez un peu au football, alors c'est du five, mais vous appréciez la qualité technique. Lequel joueur?
Avec qu'est-ce qu'on entend là aujourd'hui?
On est un ancien joueur pro, franchement, j'en ai pas d'avoir fait pause sur
C'est une émission exceptionnelle. Lequel vous préférez, Hugo?
Alors, j'adore le premier, mais je préfère le second, parce que pour moi, il est plus dur à mettre. La lucidité qu'il a, la vitesse où ça va pour mettre le petit piqué quand même par-dessus Samba. Le premier, c'est plus à l'instinct. Ouais. Il a la chance que sa frappe du gauche parte bien parce qu'elle dévisse un peu, elle va en lucarne. C'est de l'instinct, il n'y a pas de problème. Le deuxième, c'est de la maîtrise technique pure. Il fait penser un petit peu dans sa gestuelle à Amine Gouiri, formation lyonnaise aussi comme Gouiri. Et quand même,
c'est plus fort que vous, quand même.
Non, mais c'est du placement.
C'est hallucinant.
C'est quand même bien de se référer à des choses qu'on connaît parfaitement.
Il est à 9 buts. 9 buts, parce qu'il pouvait revenir, comme il avait été vendu par Metz à l'Ajax, revenir qu'à Metz dans la situation d'échec dans laquelle il était. Il est revenu à Metz. Il est à 9 buts en Ligue 1. C'est 3 buts derrière Aubameyang. C'est 1 but derrière Mofi. 2 buts derrière Ben Yedder. En jouant chez l'avant-dernier. Donc, c'est une performance assez remarquable.
15 millions d'euros, je crois, autour de ça, acheté par l'Ajax. Il n'y a pas un club français qui s'est dit, l'an dernier, ce gars, il a quand même un peu de qualité, on peut essayer de mettre un peu plus.
C'était un joueur, il était considéré comme un joueur de Ligue 2.
Oui, ouais, voilà, c'est lui de mettre 32 millions
sur le but, juste. Non, sur le premier, parce qu'il n'a pas le temps. Le premier, dans le trafic, il n'a pas le temps. Le travail de la semaine, il n'a pas le temps. Le second, il a le temps. C'est vrai que c'est classe, mais le premier, c'est
magique. Je trouve que sur le premier... Alors, j'adore le second. Oui. Parce qu'il y a le côté pur avant-centre, etc., prise d'information. On a vu ça. Ça va à 10 000 à l'heure et lui, il maîtrise tout. Mais sur le premier, il invente une situation qui n'existe pas. Parce que il crée un espace qui n'existe pas, une situation qui n'existe pas.
Sandrine Bédingue.
Exactement. Et je trouve que le premier, en fait, il est dans une situation et qu'il exploite. Il y a peu de joueurs, je pense, en Ligue 1, d'ailleurs, qui sont, à mon avis, qui ont ce flair-là dans cette situation-là. Honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, sur le premier, franchement, c'est fou, parce que personne n'imagine une seule seconde qu'il va, Comment il va créer cet espace de tir et ensuite bah, finir avec peut-être de la réussite. Honnêtement, moi, je trouve le premier, il est dingue.
Il est dingue.
La semelle, le travail de la semelle.
Ouais, la semelle, bim.
C'est important de préciser le travail de la semelle.
Mais enfin, surtout à côté d'un gros joueur de foot.
Exactement.
Hugo, de rien pour la passe D, de rien.
Ah, merci. Mais vous direz un highlight, c'est sur moi.
En fait, dès qu'il peut placer son Instagram et Lyon, il hésite jamais. Allez.
Côté gauche, ça boule.
On va remercier Georges Quirino qui a fait le déplacement.
C'est le meilleur Georges de
Saint-Symphorien. Non, mais il est bon quand même. Il est très très bon, Georges Quirino. Merci beaucoup, Georges. Excellente soirée du côté de Metz. Rentrez tôt. Je sais que vous êtes avec Patrick Muller. Il peut être redoutable la nuit, donc attention à vous.
Exactement, on va faire attention. Moi, je préfère le premier but de Mikotadze, les amis. Il est sauvage, il est animal. Je suis complètement d'accord avec Dave. Il a toujours raison, Dave.
Il est sauvage, il est animal. Passez une très bonne soirée à Metz, à vous. Allez, on va maintenant passer aux résultats de ce duel.
Ça fait combien? Fais les maths.
119,
fais les maths. En économétrie, là, ça donne quoi, là?
Le but de Mikotadze, le premier Romario.
Tu te souviens, c'est vrai, dans le travail dans la surface.
Ouais, le petit jeu.
On a les références qu'on peut.
Ouais. Mais Romario, c'est bien, c'est une belle référence. Romain, on va maintenant parler du calendrier de la Ligue 1 par rapport aux Coupes d'Europe, parce que ça a fait parler notamment Antoine Camboire. Mais petit rappel avec vous.
Oui, on a une 29e journée de Ligue 1 qui est un petit peu particulière, puisqu'au lieu de 9 matchs ce week-end, il n'en aura que 6, parce que la LFP a décidé de reporter les matchs des clubs français qui sont encore engagés en Coupe d'Europe, en l'occurrence le PSG, l'OM et Lille. Donc les trois matchs, Lorient PSG, Monaco Lille et Marseille Nice auront lieu le 24 avril et donc pas ce week-end, et c'est une situation qui a beaucoup fait parler en effet.
Ne décalez pas les journées parce que derrière il y a un euro à jouer quand même.
Exactement.
Vous allez embêter Didier Deschamps. Donc on va tout de suite écouter ce qu'a dit Antoine Camboire en conférence de presse, pas content de la décision de la Ligue.
La Ligue aujourd'hui veut protéger donc les clubs qui font les Coupes d'Europe. Et puis mais en même temps, il ne faut pas affaiblir donc, ou mettre en difficulté les clubs qui jouent le maintien. Alors chacun défend ses intérêts, mais moi je trouve qu'il faut que la Ligue surtout défende son championnat, défend la Ligue 1. Pour les clubs qui jouent le maintien, qui ont un match en moins et qui doivent jouer après donc 3 matchs dans la semaine, c'est aussi compliqué pour eux. La Coupe d'Europe, ça vient après. Hein.
Le droit de vivre, hein,
C'est terrible, c'est redoutable ce qui se passe en plateau. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec Antoine Camboire? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Présidente Siani, vous pouvez appeler le jingle Super Duel.
Jingle Super Duel.
Voilà! Voilà! Exactement, là il y a quelque chose. Bon, ils sont d'accord avec Antoine Camboire, c'est la paire Greg-Dev, ils étaient adversaires il y a quelques instants.
Et là on est amis.
Et là vous êtes amis, qui commence?
Je les soulève en premier, tu les découpes ensuite?
Oh, je découpe personne, moi.
Bon, bah, c'est Dev qui commence. Voilà, ils sont pas d'accord avec Antoine Camboire. C'est Hugo et Guillaume qui commencent.
Moi, je peux découper derrière Greg.
Moi, je veux bien défricher. Et puis lui, le talent de Guéry, la finesse de
Mikotadze. Lyon fera la différence. Est-ce qu'on est prêt en régie, Jacouille? Magnifique. Donc, Dev, vous commencez. D'accord avec Antoine Camboire?
Oui, je suis d'accord sur le constat, pas forcément sur ses arguments, mais en fait, moi, j'hallucine. C'est-à-dire qu'on a supprimé la Coupe de la Ligue, on est passé à 18 en Ligue 1, la Coupe de France, tu as même plus les prolongations, et malgré ça, il faut quand même aménager un week-end particulier avant un match de Coupe d'Europe. J'ai regardé, les Espagnols font pas ça, les Allemands font pas ça, les Italiens font pas ça, les Anglais ne font pas ça. Donc à quel moment, nous, avec une compétition beaucoup plus light, on décide de ça me dépasse?
Le championnat grec le fait, Dave, en revanche.
Ah, réponse. Une référence. Copions le championnat grec.
La réponse de Guillaume Dufy.
Les Grecs et les Français ne gagnent absolument rien en Europe. Donc les ligues, peut-être professionnelles, tentent de les aider comme ils peuvent. Antoine Camboire, je l'adore, mais je pense que s'il avait été à la place d'un des techniciens disputant les quarts de finale de la Coupe d'Europe, il aurait apprécié de pouvoir faire souffler... ses petits camarades. C'est un week-end dans l'année et aussi la Coupe d'Europe permet de valoriser et de mettre en valeur ce que fait la Ligue 1. Donc je trouve que là, Antoine a un peu faux.
Greg. Si on va par là, je vois pas pourquoi ce serait un week-end dans l'année, parce que tu peux le refaire s'il joue la demi-finale, tu pouvais le refaire pour le PSG avant le match à Dortmund, qui est quand même fondamental puisqu'il joue tout. Pourquoi tu l'as pas fait le match de Lens à Eindhoven? Tu dois le faire aussi. Donc je trouve qu'ils sont censés garantir l'intégrité de leur propre compétition. Ils sont là pour ça. C'est vrai que ça fausse le championnat. Demandez à Lorient, demandez au Havre qui risque de prendre le PSG s'il passe contre le Barça. Donc je comprends absolument pas. En plus, les équipes dont on parle ont quand même deux équipes et peuvent manager avec 5 remplacements. Donc je comprends pas pourquoi ils ont fait ça.
Fausse.
33 secondes pour Hugo.
Non, fausser le championnat, les mots sont très forts, il faudrait quand même pas pousser. On est dans une configuration où il reste que 3 équipes qui doivent se qualifier face à 3 grands clubs. C'est très tendu. Il y en a 2 qui jouent le jeudi, je trouve ça plutôt logique. Protéger le championnat, comme dit Koumbouaré, protéger le championnat, c'est aussi le protéger de la concurrence extérieure. Et en réalité, pour que le championnat ait un bon indice UEFA, il faut que les clubs du championnat performent en Coupe d'Europe. Et pour performer en Coupe d'Europe, il faut être dans les meilleures conditions. Et en ayant un gros indice UEFA, il y aura plus de places qui seront décernées via le championnat pour les compétitions européennes. Donc voilà, tout se tient.
Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord avec les déclarations d'Antoine Camboire, vous votez pour la team Dave Apadou et Grégory Achère. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est...
Grégory Achère.
J'ai dit Greg Achère. Ouais. C'est redoutable. Désolé, Greg.
Il vous dort. Ma parole, là, il est pas là.
Non, mais je l'ai vu hier et ça m'a perturbé. C'est comme ça. Grégory Schneider, je vous présente mes plus plates excuses. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est pour Guillaume Dufy et Hugo Guimet, l'arbitrage de la présidente.
Faut vraiment pas que tu penses que je t'en veux, Greg. Je vais dire, Guillaume et Hugo, je suis assez d'accord avec eux, et notamment avec l'argument de Hugo qui dit que, effectivement, qu'il faut aller chercher des points à l'indice UEFA. On nous répète toute l'année que les clubs français ne brillent pas en Coupe d'Europe, qu'il faut briller pour qu'il y ait plus de représentants français en Coupe d'Europe. Eh ben, allons-y et aidons-les au moins à atteindre le dernier carré de cette Coupe d'Europe.
Mais comment
je vois pas en quoi on met en danger, on met en péril le championnat de France, en fait.
Mais comment ils font les autres, en fait?
Tant mieux pour les autres. Enfin, tu vois, on n'est pas obligé de faire comme
donc,
les autres.
En fait, on est nul. On est nul au point que. Donc, en fait, il a raison. Non, mais Greg a raison. Schneider, non, hein, pas Cher.
Je suis assez d'accord avec eux.
Greg Schneider a raison. C'est-à-dire que.
Ils ne pas qu'on veut le faire.
Non, mais attendez, on a une compétition, on a une saison, mais ultra light en France, je vous invite à regarder, honnêtement. Bah oui, elle est ultra light. Elle est ultra light. 18, pas de Coupe de la Ligue.
Avec des beaux budgets par rapport à nos concurrents.
Ultra light, mais ça n'empêche pas les clubs en difficulté, les clubs d'Antoine Comboire d'être en difficulté. Donc, quand Antoine dit la Ligue,
mais c'est mécanique, un championnat,
les
clubs en difficulté n'ont pas besoin de la Ligue pour être en difficulté.
Mais non, mais dans un championnat, t'as forcément des derniers, ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Forcément, tu pourras avoir 10 Liverpool, il y aura bien 2-3 qui vont être en difficulté.
C'est une mesure exceptionnelle sur des matchs à élimination. Direct.
Juste Guillaume, question toute bête. En quoi le fait de ne pas jouer ce week-end, ça aide les clubs qui disputent la Coupe d'Europe? Parce qu'on entend, et plein de fois des joueurs nous le disent, on a aussi besoin de rythme, d'enchaîner tous les 3 jours. En quoi ça va servir, par exemple, le Paris Saint-Germain qui a un effectif de 23 joueurs?
Moi, je pense que, évidemment, le Paris Saint-Germain, dans ce trio, n'est pas le bon exemple. Et vous le savez très bien, Giovanni, et je vous remercie pour cette question. Cette patate chaude, mais...
je sais que vous êtes au-dessus, normalement.
Les deux autres ont joué jeudi. On sait très bien, et on connaît très bien la difficulté de rejouer un match de championnat de haut niveau après un match... Le jeudi,
mais c'est ton statut de club
très franchement, si ça se passe bien jeudi prochain lors des matchs retour, on va dire c'est
plutôt sympa. Et si ça se passe mal,
on verra, mais en fait,
les supporters d'Aston Villa et le prince Harry en premier.
Vous entendez la musique ou pas, Hugo?
Oui, mais ils ont dit
ça veut dire la pub, on en parle dans quelques instants. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on reprend ce débat passionnant et je vous promets, les chroniqueurs seront disciplinés et parleront tous en même temps. A tout de suite. De retour pour la suite de l'équipe du soir, toujours en compagnie de Siani Dalma, de Guillaume Dufy, de Dave Apadou, Grégory Schneider, d'Hugo Guimet. Pour les infos, c'est Romain Aran. Pendant la pub, Greg Schneider a encore fait une erreur. On a dit qu'on ne parlait plus du CV, qu'on ne se vantait pas de ce qu'on avait fait en parcours universitaire. Vous l'avez refait, mon cher Greg. Du coup, c'est un deuxième carton jaune. Et c'est par conséquent...
J'en ai déjà pris un.
Eh ben oui, pour le début. Donc là, c'est prison.
Enfin, je vous trouve avec Tendresse, il nous a dit qu'il voulait être garde forestier.
C'est peut-être le moment de passer à une annonce.
Non, ce n'est pas bien.
Bon, avant la pub, on parlait
du cas... Je veux quitter Libé.
Est-ce qu'il y est vraiment à Libé ? Ça, on ne sait pas. Il est beaucoup chez nous, quand même. On parlait avant la pub du cas Antoine Camboiré, de sa passe d'armes avec la Ligue sur les Coupes d'Europe. Et je vous ai coupé la chic, mon cher Hugo Guimet. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Je disais que le prince William... Et non, oui. Le prince Harry.
C'est bien, on peut se reprendre.
Le père de Georges, pas Georges Mikotadze. Oui. Georges.
Ni Georges Cyril.
Prince Georges. Est un grand supporter des Villans. Et il était très déçu après le match. Il est passé en zone mixte. Et lui, comme d'autres supporters et des joueurs d'Aston Villa, regrettait d'avoir à jouer en première ligue. Je crois qu'ils jouent contre Everton ce week-end. Un match qui va être très compliqué en termes d'intensité, etc. Parce qu'eux aussi jouent les premières places et la qualification en Ligue des Champions. Alors que Lille va pouvoir préparer le match retour et que c'est serré, ça va se jouer à un but. Donc,
les Anglais font jamais d'impasse. Il n'y a jamais de week-end qui saute.
Bien sûr, bah, par contre, ils étaient au courant de l'information.
Bah oui, d'un seul coup, ils disent mais attends, c'est quoi ce championnat-là où on est à la carte mais donc, où on supprime, il n'y a pas de prolong.
Ça veut dire que c'est un avantage.
On supprime les compétitions. On enlève des clubs dans le championnat, ils ont dû se dire ah ben ouais, ben vous c'est tout confort.
Mais donc c'est un avantage pour encourager la performance des clubs français sur la scène européenne.
Mais tu parles de l'Angleterre,
oui.
Combien de conférences de presse de techniciens anglais demandant un allègement du calendrier
Non, de techniciens de première ligue. Parce qu'il n'y a pas un anglais qui demande ça.
De première ligue.
Oui, enfin, il demande un allègement, mais pourtant ils y restent. Tu vois, Pep Guardiola, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est là, presque 10 ans. Jürgen Klopp, il a fait combien 7-8 ans. Ils sont très très bien en Angleterre. Ils sont dans le meilleur championnat du monde et ils ne sont pas là en train de se dire
pour acheter deux équipes.
Il faut nous faire sauter. Bah ouais, mais les Italiens, ils ne demandent pas ça non plus. Les Espagnols, ils ne demandent pas ça. Les Allemands, encore moins. Les Allemands, en plus, quoi, ils ont un 11 type, ils jouent. Avec...
Je crois que le Barça, ils ont joué deux fois moins de matchs que le PSG avant la confrontation face au PSG.
Ça a été déplacé aussi.
Non, ce n'est pas que ça a été déplacé. C'est que le week-end a été.
D'Espagne.
Exactement. Mais ouais. C'est un week-end qui a été sanctuarisé pour la Coupe d'Espagne. Mais ce n'est pas un truc où.
Ça a été allégé pour.
Oui, mais très bien. Mais je veux dire, on n'a pas allégé, on n'a pas dit, bon, qui est encore en Coupe d'Europe, vous sautez. Attendez, on n'est pas des gosses. Quand même.
La différence, c'est qu'ils ont l'habitude d'être à ce moment-là, nous, un peu moins peut-être.
Oui, c'est ça, en fait. Nous, on est pris de vertige, en fait. Mais vous avez raison.
Siani,
oui.
Vous vouliez réagir, je vous ai vu.
Sur le rythme, vous avez dit perte de rythme, mais enfin, en une semaine, on ne perd pas de rythme.
Ah, je posais la question.
Ça peut aider.
Je ne pense rien, moi, ce soir.
J'essaie d'y répondre. Sur la perte de rythme, je ne vois pas bien comment, sur une semaine, on peut perdre du rythme. Ça va les aider à récupérer, certainement, d'avoir un match en moins. En plus, c'est des joueurs extérieurs à chaque fois. Donc, ça peut être quelque chose aussi qui compte. On peut essayer de trouver des solutions pour que nos clubs français soient plus performants en Coupe d'Europe. On ne dit pas que ça va fonctionner, on ne dit pas que c'est la meilleure solution, mais pourquoi pas essayer. Après, peut-être que la saison prochaine, on trouvera autre chose. Mais je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée de tenter quelque chose pour avoir trois clubs en demi-finale de Ligue de Coupe d'Europe.
Le truc, c'est que si les trois se font sortir, et on n'est pas loin...
Nous vois-moi.
On en parlera tout à l'heure.
Mais on rigolera 5 minutes.
On pleurera l'élimination des clubs.
J'ai une question. Est-ce que tu penses que ça aura une vraie incidence?
Pas tous en même temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
J'ai une question à poser. Est-ce que ça aura une vraie incidence sur la Ligue 1? Tu crois vraiment que ça changera quelque chose à la course pour le maintien?
Si t'as le son de cloche de Roussier, si t'as le son de cloche de Lorient...
Oui, Roussier, je ne veux quand même pas parler. Roussier, le mec a crié au scandale parce que Enrique avait aligné une équipe réserve, il a même envoyé une lettre des magots à la Ligue pour dire ah là là, bah c'est pas équitable parce que le PSG ils ont joué avec l'équipe B.
Je vous posez une question. Moi, journalistiquement, je vous dis dans ces deux clubs, ça tire, et dans un troisième club d'ailleurs, ça tire, c'est Nantes. Donc si ces clubs-là sont pas heureux, donc là, je crois pas savoir que Roussier est à Nantes. Donc je veux dire, il y a trois clubs qui disent ça nous pose problème. Moi, je dis juste ce que disent.
Il faut les croire. Il faut les écouter.
Oui, parce que
il faut.
Oui, je pense que Comboiré, ça lui prend la tête. Et surtout qu'après, si tu joues la demi-finale.
Mais Antoine, il est là depuis deux matchs. Antoine, Greg.
Enfin, je dirais à un moment donné, c'est bon.
Antoine, il est là depuis deux matchs.
Non, je veux dire, ces clubs-là disent ça pose problème. Moi, je suis pas à leur place. Et si t'es en demi-finale. Il va falloir le refaire d'une manière ou d'une autre. Donc dans ces cas-là, tu mets le doigt dans un engrenage pas possible. Alors c'est vrai qu'il y a un léger préjudice. Je pense à Lille, parce que Lille, ils prenaient Monaco, c'est un match important où ils sont à touche-touche sur le. Je pense surtout à eux. Mais après, ils ont quand même un effectif. Il y a cinq remplacements.
C'est la compétition.
La compétition. Tu peux pas. C'est gérable. C'est dur, mais c'est gérable. Et trois clubs qui protestent, ça ne semble pas être personnellement négligeable.
Non, mais voilà. c'est pas sur 18 quand même.
Ça compte. Voilà. 3 non, sur 18. 3 concernés, je veux dire.
Oui, bah, peut-être que Marseille, Lille et PSG sont concernés aussi. Enfin, tu vois, c'est...
C'était très serré. Très serré ce super duel. Et c'est donc une victoire de Greg Schneider et de Dev Apadou. Débat passionnant. Allez, on va maintenant passer à Kylian Mbappé, puisque sa mauvaise prestation face au FC Barcelone n'arrête pas de faire parler. Ça défraye la chronique. Au-delà de ce match, c'est plutôt la forme aussi de l'international français qui interroge. Romain, ça a été le cas dans le journal de l'équipe, notamment aujourd'hui, sous la plume de Loïc Tanzi, Hugo Delon et José Barroso.
Tout à fait. Un dossier consacré donc à Kylian Mbappé dans l'équipe du jour, avec notamment trois grands aspects. Le fait qu'il soit sur une période, on va dire, de disette statistique avec un seul but sur ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le fait que l'équipe n'est plus construite, on va dire, autour de lui sur le terrain. Et enfin, le contexte de défiance globale depuis l'annonce de son départ.
Merci beaucoup Romain. Alors la question est simple, la gestion de Luis Enrique a-t-elle plombé Kylian Mbappé? À cette question, présidente, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Là, c'est un jingle, mais duel que vous pouvez appeler.
Jingle.
De mieux en mieux. Ça progresse de lancement en lancement. Bientôt, elle sera à la place de Mémé. Bien sûr, écrit, bientôt. Donc, j'ai la team des oui. Et il est tout seul. Je ne sais pas pourquoi je dis la team des oui. L'habitude des super duels. C'est Greg Schneider. J'ai non. C'est Hugo Guimet. Hugo, non. Pour quelle raison?
Mais en fait, Kylian Mbappé, il a été piqué dans la gestion avant la Real Sociedad. Il a été bon à l'aller. Il a été bon au retour. Et là, maintenant qu'il est transparent, ça serait la faute de Luis Enrique. Donc j'ai une question pour Greg, en fait. Est-ce que, comme il a été transparent en équipe de France, est-ce que c'est la faute à Didier Deschamps?
Non, mais là, il ne peut pas vous répondre. Allez-y.
Ah si, si, j'ai le droit de faire ça. Oui. Marc Lasse m'a dit, on a le droit de faire ça.
Ah, il donne les noms, en plus.
C'est exceptionnel.
Son totem.
Non, mais là, c'est hallucinant.
C'est bien qu'un arrêt en train de devenir danseuse.
Ah, c'est la gestion du chrono. Non,
mais c'est la gestion du chrono. C'est le 15-15,
ça. La réponse de Greg.
Je fais un 15-15.
Allez-y.
Je répondrai quand il aura fini.
D'accord. Non, Greg, allez-y en régie, on me dit qu'il faut répondre. Je suis désolé, je pensais pas qu'Hugo allait faire ça. Allez-y.
Non, je me pose pas le problème en ces termes, parce qu'il regarde des petits moments. Je pense que c'est, tu joues pas avec l'ego de ces mecs, en fait. Moi, j'ai vu l'entraîneur du Barça dire tout le temps que Messi était le plus grand, l'entraîneur Cristiano Ronaldo dire tout le temps que Cristiano Ronaldo est le plus grand. Et c'était pas par servilité, c'était parce qu'ils ont des égos qu'il faut nourrir. Et si tu touches à ces égos, quelque part, tu touches aux joueurs.
Donc allez-y Hugo. Non, c'est exceptionnel, mais c'est très
Greg,
bien comme duel.
Greg il est complètement nourri son ego là. En fait, je comprends pas pourquoi il faut aller chercher la faute chez le coach quand on a des défaillances individuelles de joueurs, et d'autant plus de grands joueurs. En fait, Mbappé il est pas bon en ce moment parce qu'il met pas les ingrédients pour être bon. Il est déconnecté de l'équipe et il est pas assez influent sur les matchs, au-delà du fait.
Terminé. Là Hugo, là c'est le règlement, là c'est sûr. J'ai demandé à Marc. On dépasse pas. La réponse de Greg.
Alors, Marc, je pense qu'il doute de son importance dans l'esprit du coach. Il doute de son importance dans l'équipe. Et que ça lui fait pas de bien, parce que ces mecs, il faut toujours mettre des bûches au feu de leur ego pour les nourrir.
Leur ego, c'est leur niveau.
Merci beaucoup, Greg. Un débat passionnant mais haché. Si vous pensez que Luis Enrique a plombé la saison de Kylian Mbappé, vous votez pour Greg Schneider. Si vous pensez le contraire, vous votez pour Hugo Guimet. Présidente, à vous d'arbitrer.
Alors, j'ai beaucoup aimé le 15-15.
Le 15-15.
C'est un truc, ça me
fait. Un peu fractionné.
Pour m'expliquer, oui. Mais je pense, comme Greg, que oui, il a complètement plombé sa saison, effectivement.
Enfin, complètement non, mais il n'a pas maximisé.
Si,
voilà.
Je voulais savoir. Je pense qu'il a...
Non, mais. Oui.
Allez-y, Siani. Parlez en paix.
En tout cas, c'est la fin de saison, parce que depuis qu'on sait qu'il va quitter le PSG, la gestion de ce joueur, quand même, pour moi, elle est complètement lunaire. C'est-à-dire que c'est ton meilleur joueur. Tu le mets sur le banc, tu le fais jouer, tu le sors. Enfin. Et moi, je comprends que Mbappé, il est perdu le rythme.
Tu le vexes.
Oui, il est vexé. Effectivement, c'est un joueur qui a beaucoup d'ego. Mais même sur le terrain, je trouve qu'il a perdu en rythme. Il est plus. L'équipe ne joue plus pour lui. Elle n'est plus du tout autour de Kylian Mbappé. Le curseur, c'est.
Non, vous avez
le
parlé,
curseur, c'est déplacé vers, par exemple, Ousmane Dembélé, qui semble beaucoup plus important que lui dans cette équipe. Et je pense que les choix de Luis Enrique, effectivement, ont contribué à l'état dans lequel est aujourd'hui Kylian Mbappé.
Donc, point pour Greg. Dev, votre religion.
Moi, j'ai eu du mal à me prononcer sur cette question, parce que très tôt, j'ai dit que la gestion de Luis Enrique, franchement, c'était une catastrophe. Et je rejoins totalement ce que dit Greg là-dessus, c'est-à-dire que tu ne fais pas ça au meilleur joueur de ton équipe. Jamais. Et on peut reprendre, donc tu parlais de Messi et tout, j'ai entendu dire « ouais, mais Messi était toujours fort et tout », mais tous ceux qui ont en tête...
C'est pas vrai.
Alors en plus, on peut discuter de ça, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, tous ceux qui ont en tête, même, je me souviens de Zidane... qui avait des périodes de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, notamment au creux de l'hiver et tout, c'était souvent une période difficile. Vous ne croyez pas que l'autre s'amusait, son entraîneur s'amusait à le sortir à la mi-temps. Jamais, ouais. jamais ça n'arrivait. Et il n'y a aucun grand joueur qui est géré comme ça. Maintenant, ce serait quand même trop facile de dire que la contre-performance de Kylian Mbappé, ses contre-performances en l'occurrence...
Oui, c'est ça, parce que là, on parle de la forme globale.
Hein. Exactement. Viennent de l'entraîneur. Parce que c'est aussi un peu l'œuf ou la poule. Je pense que si Kylian Mbappé avait été très performant dans ces matchs-là, c'est-à-dire où s'il avait généré plus d'énergie, plus de volonté, ce qu'il ne fait plus. Moi, je trouve qu'il joue à l'économie depuis un moment. On en a parlé un petit peu hors antenne tout à l'heure. Moi, je trouve qu'en ce moment, il joue seulement la carotte. Il joue seulement les coups pour lui. Il ne génère plus rien. Il n'y a plus de contre-effort. Il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus d'appel. Il génère plus grand-chose. Et je pense qu'à ce moment-là, il s'expose à ce que Luis Enrique le gère comme ça.
Possible.
Exactement. Il rend possible cette gestion-là. Parce que si, à chaque match, c'est une brute, c'est quelqu'un qui est décidé d'être ce qu'il est, c'est-à-dire celui qui prétend être le meilleur joueur du monde, ou en tout cas, il prétend à ce truc-là, il prétend être ballon d'or peut-être même dès cette saison, il ne peut pas se comporter comme il se comporte ces dernières semaines. Bien sûr. Donc voilà, moi je trouve qu'il s'expose aussi à ça.
Ouais, moi j'ai bien...
Guillaume, pardon. Allez-y.
Vas-y, c'est bien.
Non, mais juste pour répondre à Dave...
Sur le comportement.
Ouais, je trouve que de toute façon, c'est pas la première saison où il a un creux. Oui. Et les autres entraîneurs continuent à lui faire confiance.
Et ça, je suis d'accord avec toi.
Et forcément, on peut pas décorréler le comportement de Luis Enrique avec lui et son état de forme actuellement.
Enfin, mais tu trouves pas que l'ensemble de sa saison est comme ça? Regarde,
le début de saison, c'est pas lui, c'est le PSG qui l'a mis dans un loft. Il est quand même revenu sur la première partie de saison. Il était quand même assez performant.
Non, je l'ai pas trouvé performant.
En tout cas, il continue à avoir des stats et à porter le PSG.
Ouais, regarde, la Ligue des Champions, il met un but dans le jeu ou deux peut-être.
Il n'y a pas que creux. Aujourd'hui, on analyse le foot et en l'occurrence les performances de Mbappé à travers le prisme de ses buts. Et là, il s'arrête de marquer et donc c'est un problème. Sauf que le problème, il est antérieur au fait qu'il arrête de marquer. C'est-à-dire qu'il a de moins en moins d'influence dans le jeu du Paris Saint-Germain.
Ça me pose un problème.
Il touche 35-40 ballons par match. Tout à l'heure, je parlais de Cristiano Ronaldo dans ses premières saisons au Real. Il touchait 100 ballons.
Et pourquoi il en touche moins? Est-ce que pas aussi la manière dont joue le PSG qui fait que le centre de gravité s'est déplacé vers un autre joueur?
C'est un des meilleurs joueurs du monde.
Il doit vivre la même chose dans l'équipe de France.
Parce qu'on utilise l'argument de la vexation. La vexation, quand il est vexé et qu'il met des buts, on dit il était vexé, il a mis des buts, bravo. Et là, il est vexé. Eh bien, il est moins bon. On dit il est moins bon parce qu'il est vexé. On ne peut pas l'utiliser.
Il n'y a pas de souci parce que tout a été dit. Alors, sur Luis Enrique, enfin, les voix des entraîneurs sont parfois impénétrables. Un entraîneur, normalement, doit mettre dans les meilleures dispositions possibles son meilleur joueur. Le mec qui est capable, de faire gagner des matchs. Est-ce que Dembélé peut faire gagner un match aujourd'hui?
Non.
Est-ce que Asensio peut faire gagner un match aujourd'hui? Non. Colomani? Non. Ramos? Non. Le seul aujourd'hui au Paris Saint-Germain qui peut faire gagner un match, c'est lui. Est-ce qu'il est mis dans la meilleure disposition?
Non.
En quoi il n'est pas mis dans la meilleure disposition contre le Barça? Non. En quoi?
Mais je parle à l'ensemble depuis un mois et demi. D'accord? Je suis d'accord avec ce que tu dis aussi. Il a ses parts de responsabilité. Il est moins bon. Peut-être que physiquement il est moins bon. Peut-être qu'il est fatigué. Peut-être qu'il est pas bien. Il est pas bon. Il a raté son match. Il a été lamentable. Mais tu perds pas contre le Barça parce que Mbappé a été nul et passé complètement à côté. Si t'as un gardien digne de ce nom, ce match-là, tu le perds pas. Tu dois pas, être obligé de marquer 4 buts à chaque fois pour passer en demi-finale. Mais moi, j'ai du mal à saisir Enrique. On le fait jouer 9, Mbappé 9, hein, axial pendant pas mal de semaines.
Bien sûr. 3 mois, presque 3 mois.
C'est long, 3 mois sur une saison. C'est long. Et puis soudainement, eh ben non, on le remet à gauche et on met un mec qui n'est pas attaquant, Asensio. Bon, eh ben, il y a moins d'espace pour lui aussi, parce que les deux centraux, ils se disent, bon, Asensio, il va pas marquer. Dembélé, il va pas marquer. Eh ben, on va faire une prise à 2 ou à 3 sur Mbappé. Voilà. On a tous critiqué le match d'Alande. Il a pas été bon. Mais regardez les déplacements et regardez comment nos amis de City peuvent marquer et se trouvent des espaces pour frapper. Il y a de l'espace. Parce qu'il y a un vrai neuf. Enrique, je trouve que, en ce moment, je sais pas à quoi il joue, mais il essaie de monter les choses et le foot, c'est un truc simple.
On continue juste après la pub de parler de cette thématique passionnante de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain. On aura d'ailleurs un supporter du PSG pour nous parler de la relation d'amour qu'il y a entre le public du Parc des Princes et la star française. On parlera aussi de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang. À tout de suite pour la suite de l'équipe du soir.
De retour dans l'équipe du soir, toujours en compagnie de Siani Dalma, de Guillaume Dufy, de Dev Apadou, de Greg Schneider, qui est très bon pendant les pubs. Ouais. Greg Schneider, pendant les pubs, c'est du très très haut niveau, c'est la Champions League.
Il faudrait le filmer à ce moment-là.
Ah oui, c'est fantastique.
Bac plus 4.
Ouais, voilà, c'est exceptionnel. De Hugo Guimet, qui reçoit beaucoup de messages sur les réseaux. Visiblement, vous faites une grande émission, ce que vous m'avez dit.
Gros succès.
Non, pas du tout.
Gros succès.
Il y a des gens qui l'ont vu au Five et qui essaient de le recruter. Ouais, voilà.
Guillaume, je crois que vous aviez un petit message personnel à faire passer.
Je voudrais embrasser très fort Alix Broncan, c'est le fils de Pierre-Henri Broncan, l'entraîneur de Brive, qui est malade, qui passe beaucoup de temps à l'hôpital. J'avais une énorme pensée pour lui et pour ses parents et son grand frère.
Eh ben, on pense tous à lui, la grande famille de l'équipe. Merci beaucoup Guillaume. On va poursuivre ce débat sur Kylian Mbappé, qui était enflammé. Pour ceux qui nous rejoignent, on se posait la question de savoir l'influence de Luis Enrique sur les performances actuelles de Kylian Mbappé. Est-ce que sa gestion a plombé la star française? Le débat était animé. Greg, vous vouliez prendre la parole.
Ouais, parce que j'ai entendu parler des contre-efforts, de l'investissement qu'il émettait, de l'attitude, et c'est quelque chose qu'on a souligné depuis cet automne, en fait. Et il faut quand même comprendre qu'on parle d'un joueur auquel on a expliqué qu'il ne jouerait pas de la saison s'il ne prolongeait pas, et il l'a cru. Sébastien Tarrago, dans l'enquête, dans l'équipe enquête, là, ils l'ont cru. Donc ils se sont demandé comment ils allaient faire et tout. Et pour se requalifier, enfin pour revenir...
Greg, ils l'ont vraiment cru.
Ils l'ont vraiment cru. Le père s'est demandé comment on pouvait le faire jouer autrement. Ils l'ont cru. Et je vous garantis qu'ils l'ont cru. Et pour donc se remettre un petit peu et montrer patte blanche par rapport aux Qataris, il a lâché alors ça entre 80 et 120 millions d'euros de primes qui étaient quand même contractualisées. Alors je dis pas que c'est pas, ça en fait pas un martyr, ça en fait pas un.
Non mais c'est des sous quand même, tu peux faire.
Et puis surtout c'était contractualisé. Luis Enrique n'est pour rien dans ça. C'est une décision qui a été prise à Doha au Qatar, il est pour rien dans ça.
Il a d'ailleurs participé à ce qui sort du loft.
Il a participé, il a aussi fait ce qu'on lui a dit.
Non mais il était content qu'il sorte du loft.
Après 0-0 contre l'Orient, je pense. 0-0 contre l'Orient, un joueur qui est capable de marquer des buts.
C'est pas ce que je veux dire. C'est que Luis Enrique n'est pas à l'origine de son malaise ou d'une espèce de blues. Parce que Mbappé, là, il veut en finir, en fait. Il veut juste aller le plus correctement possible au bout. Et puis après, mais il y a quelque chose qui s'est tramé autour de sa gestion. Et c'est beaucoup plus large que Luis Enrique.
Oui, moi, je pense que là où.
Qui est compliqué.
Exactement.
Voilà,
là où Greg touche juste, c'est que c'est vrai qu'on en fait, parce que c'est incarné comme ça, une sorte d'affrontement ou de cohabitation compliquée entre Luis Enrique et Kylian Mbappé.
Ouais, faut regarder.
Mais Luis Enrique, c'est pas Che Guevara, hein. C'est-à-dire que jusqu'au 14 février, la gestion de Mbappé, c'est même contre Revel,
il joue
90 minutes. Mmh. Et sa phrase, je crois que c'est Orléans, il joue après. Mmh. Quand Kylian Mbappé veut jouer, nous, le staff, on s'assoit et on le regarde faire.
Ok. Et c'est exactement.
On passe de ça à partir du moment où donc Mbappé n'est plus un enjeu industriel parce qu'il annonce. Son départ à sa direction, à cette gestion de Luis Enrique. Luis Enrique ne le fait pas sans blanc-seing de sa direction.
C'est impossible.
C'est impossible. Évidemment.
Mais juste, Dave, permettez-moi cette puisqu'on parle de l'impact émotionnel de
Kylian Mbappé. C'est pour prendre un peu du truc, quoi. C'est, voilà.
On peut aussi, et là je me fais l'avocat de ceux qui pensent que c'est pas... À partir du moment où Kylian Mbappé prolonge au PSG, qu'il a tous les pouvoirs, qu'on lui donne la pleine responsabilité, il y aurait 6 mois de contrat, il peut aussi assumer et comprendre que des gens lui disent quand t'es pas bon, c'est embêtant, c'est contraignant.
Mais tu le perds un peu contre Barcelone. Je comprends ce que vous dites, Giovanni, mais tu le perds un peu contre Barcelone. Effectivement, le club, on peut comprendre.
Je finis juste dessus. Moi, je trouve que, et là, je vais citer le collègue Vincent Duluc, je trouve que c'est lui qui a eu la meilleure formule. C'est plutôt que de se creuser les méninges à ce moment-là de la saison, et pas à ce moment-là de la saison, parce que ça a commencé en février, on l'a dit. À ce moment-là de la saison, plutôt que de se creuser les méninges pour savoir comment tu vas jouer sans Kylian Mbappé, ta fin de saison où tu es en lice encore sur tous les tableaux, elle devrait te conduire à réfléchir à comment bien jouer avec Kylian Mbappé. Et c'est ça, en fait, que Luis Enrique ne fait pas. Parce que effectivement, il y a d'autres enjeux. Il y a aussi de se le faire. Faut pas exclure ça. C'est-à-dire qu'il déteste les joueurs qui dépassent du cadre. Or, Mbappé est un joueur hors norme. C'est ce qu'il déteste dans le foot, lui. Il aime des joueurs.
C'est le titre du documentaire de la chaîne L'Équipe sur Mbappé depuis.
Voilà.
Mais là, on parle de lui comme s'il avait le temps de jeu de Randal Kolo Muani, en fait. Parce qu'il a joué 90 minutes.
Hugo, allez-y.
Non, mais oui, je vais finir parce que. En fait, cette formule, elle est très bonne, je suis d'accord. Et ça, pour le coup, c'est par rapport à la tactique de Luis Enrique, qui devrait jouer, mais moi je le pense aussi, plus bas, et jouer les transitions, les contres, parce que le profil de ses joueurs correspond mieux à ça.
Non, mais elle n'est pas sur la tactique. Elle est sur le,
débat.
Elle est sur l'utilisation de Mbappé. Elle est sur le temps d'utilisation de Mbappé.
Dave, on en parlait tout à l'heure.
Dave, tu ne le laisses pas sur le banc.
La majorité du temps où le PSG joue un match, il y a Mbappé sur le terrain quand même.
Tu veux vraiment sur la Ligue 1 là, qu'on vérifie tous les matchs contre Nantes, etc., où il est dans les tribunes.
Mais à chaque fois qu'il y a un match important, il démarre à Monaco, à Marseille, contre le, le Barça, à l'Europe, contre la Real Sociedad.
Parce qu'il n'est pas suicidaire. D'accord.
Donc ensuite,
Rennes aussi, il était.
Ensuite, il y a les buts, mais il y a le contenu des matchs. Et ça, quand tu es un joueur de la trempe de Mbappé, tu dois apporter du contenu toutes les semaines à tes matchs pour avoir de la consistance, pour arriver en confiance. Et pour peser au moment où ça compte.
Mais je te rejoins,
et pas seulement mettre les buts et jouer les stats, comme tu le disais tout à l'heure, jouer les coups.
Je suis d'accord avec toi.
Parce que c'est 39 buts cette saison, 10 pénaltys, ouais. C'est des grosses statistiques, mais son apport dans le jeu de ce que j'attends de lui pour l'un des meilleurs joueurs du monde, pour moi, c'est insuffisant.
Mais moi, je suis d'accord avec ça. Sauf que
il doit faire des choses dans le match.
Mais bien sûr, sauf qu'il n'y a aucun grand joueur qui serait géré comme il l'est.
Là, tu rejoins le discours de Luis Enrique, mais même à l'époque où il ne faisait plus jouer, parce que le match contre Reims, on se rappelle du triplé, où il dit c'est insuffisant.
Il faut qu'il fasse plus.
Donc, mais à l'époque, ça ne le dérangeait pas de laisser jusqu'à la fin du match et de le faire jouer, parce qu'il aurait très bien pu sortir contre Reims.
Évidemment. Mais bien sûr, sa gestion avant.
En 10 ans, en fait, il n'a pas été assez bon.
Mais c'est sa gestion d'avant qui n'était pas normale et pas logique.
Et bah, pourquoi pas finir la saison comme ça de toute façon parce que là, tu sais que ça va te plomber le joueur.
Mais il était,
et ça te l'a plombé.
Il avait les menottes, Luis Enrique. Moi, avant.
Guillaume, allez-y. C'est un peu quand même léger.
J'ai entendu ce que tu dis. Et il y a plein de chroniqueurs, d'ailleurs, qui parlent du contenu et de ce qu'il apporte. Mais parce que pour vous, Mbappé, c'est quoi comme joueur?
Un buteur.
Bah pour moi, c'est qu'un buteur.
Ouais, pour moi, c'est pas Pippo Inzaghi. Je suis désolé.
Tu peux être un buteur sans être Pippo Inzaghi. Ouais. Tu peux être Lewandowski. Bah
déjà, tu peux essayer déjà d'être Thierry Henry, par exemple.
Pas tout le temps, Hugo.
Pourquoi il serait Thierry Henry?
Tu parles des stats. Lui, contrairement à d'autres attaquants, lui, les stats, c'est capital pour lui.
Oui.
Je pense qu'on voit, beaucoup de gens voient Mbappé comme quelqu'un qu'il n'est pas. Pour moi, je pense que c'est un buteur. Un buteur.
Mais lui se voit comment, Guillaume, alors?
Comment?
Parce qu'il y a aussi ce que lui pense de lui. Vous pensez que lui
se voit... Mais je sais pas. Moi, je pense que c'est un buteur. C'est pas un meneur de jeu, c'est pas Messi, c'est pas... Moi, je pense qu'il est plus fabriqué et conçu aujourd'hui comme Cristiano Ronaldo de la fin, pour marquer l'histoire
des stades,
des stades, des stades. Et donc... Qu'est-ce qu'on attend de plus de lui? Qu'il fasse jouer, qu'il soit 10 comme le nouveau Dembélé numéro 10? Enfin, qu'est-ce qu'on attend
de lui? Justement, ce que j'attends de lui, le modèle c'est Cristiano Ronaldo. J'attends de lui, du Cristiano Ronaldo à 25-26 ans. J'ai regardé tout à l'heure Cristiano Ronaldo à 25-26 ans. C'était pas Mbappé, c'était palette beaucoup plus large. C'était une centaine de ballons par match. C'était des déviations de la tête et on suit l'action. Des courses défensives, des passes décisives, des déviations en talonnade.
Pourquoi?
Bien sûr qu'il marquait autant. C'était sa première saison au Real Madrid. Il a mis 50 buts.
Si je puis me permettre, pourquoi Greg, vous voulez faire ressembler Mbappé à X ou Y?
Mais on ne veut pas le faire ressembler.
Si, prenez-le comme il est.
Il a ressemblé à ça.
Non, c'est pas vrai. D'accord. Si vous lui parlez, c'est pas vrai.
Il y a trois ans, il n'était pas plus influent sur les matchs. Mais il faisait pas plus peur en défense.
S'il a décidé d'être ce joueur-là...
Il n'était pas plus efficace dans les dribbles.
Mais il s'en fout. S'il a décidé d'être cet autre joueur-là, on est qui pour dire il se trompe?
Il a décidé d'être moins bon qu'il y a trois ans.
Non, il n'est pas moins bon. À son idée, il n'est pas moins bon. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire il faudrait qu'il soit ci, il faudrait qu'il soit ça, mais il faut lui demander à lui.
Mais il y a trois ans, il était extraordinaire. Il passait à chaque fois qu'il voulait.
Mais là, vous pensez que ça... Alors Greg, pour essayer de... Vous pensez que ça lui convient d'être à ce niveau-là?
Il a été nul contre le Barça.
Mais arrêtez, il y a un contexte. On se tue à dire, s'il y a un débat ce soir-là dessus, c'est qu'il y a un contexte autour de lui qui, quelque part, on est tous d'accord là-dessus, le valorise pas. Donc on va pas dire il est moins bon, il est ceci, il est cela, alors qu'il y a un contexte autour dont lui a l'impression qu'il joue contre lui.
D'accord. Mais comme il a débat pas sur le jeu.
Il a l'impression que le PSG joue contre lui. Il a l'impression que Luis Enrique joue contre lui. Donc après, on va dire.
J'ai une question pour Dave par rapport à ça, parce que c'est extrêmement intéressant. Vous mettez sur le doigt sur quelque chose d'intéressant. On ne peut pas entendre toute l'année, à longueur du temps, que Kylian Mbappé est plus fort que tout, qu'on appuie sur un bouton et qu'il est capable de sortir un doublé. Et là, Dev, on me dit donc que cette gestion-là, elle l'empêche de briller pendant 3-4 matchs parce que, soi-disant, le Paris Saint-Germain joue contre lui.
Alors,
c'est recevable, ça?
Non, parce que j'allais y venir. C'est-à-dire qu'en fait, on a un souci, en fait, quand on évalue Mbappé, c'est de toujours... chercher une raison externe à ce qu'il est.
il est juste moins bon depuis un bon moment maintenant. Parce que l'an dernier, sa saison en championnat, elle n'est pas très très bonne. D'ailleurs, il doit un peu s'arracher à la fin parce qu'il veut quand même prendre le titre de meilleur buteur. Il est à la lutte avec la Cazette.
La Cazette, bien sûr.
Pas dans la même galaxie, théoriquement. Mais l'année dernière, qu'est-ce qu'on a dit? Il a été plombé par Messi, Neymar. C'est exactement ce qui s'est dit. Et lui-même a laissé filtrer ça. On m'utilise comme un pivot, souvenez-vous, le hashtag
Pivot Gang,
etc.
Surtout Neymar.
Oui, peut-être surtout Neymar. Bah, j'ai vérifié la dernière fois, là, Neymar, il n'est plus là, en fait. Neymar, il est
mais
plus
sinon
là.
Plus d'ailleurs,
Messi, j'ai une info pour vous. Verratti, avec son hygiène qui ne correspond pas au canon de Mbappé, il n'est plus là non plus. Toutes ces brebis galeuses, entre guillemets, elles sont parties. Et là, maintenant, on recherche encore une autre raison. Il a fait place nette, normalement, au PSG. Mais... donc, à un moment, il y a aussi sa propre responsabilité.
Bah oui, il y a un coup de moins bien, comme tout sportif de haut niveau.
On est bien d'accord, mais il n'est pas bon.
Mais et on connaît comme sa communication... et réfléchi, choisi, ciblé, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'il a. Est-ce que c'est Enrique? Est-ce que c'est sa gestion et son annonce trop prématurée de son départ et du Paris Saint-Germain aussi qui le plombe? Bon, il n'est pas bon. Ouais. Mais moi, je trouve qu'on attend trop de lui. C'est un buteur.
Ne pas le prendre pour une machine après France-Suisse. Il a un gros trou et il est aux portes de la retraite internationale. Il l'expliquait dans l'équipe. Ne surtout pas le prendre pour quelqu'un qui a dit...
Pas pour les mêmes raisons.
Non, c'est parce qu'il était déstabilisé par rapport à ça. Mais mon Dieu, il l'a dit dans l'équipe sur trois pages.
Oui, mais parce qu'il avait été
obligé. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas imperméable au contexte. J'essaie juste de vous dire ça. Voilà.
C'est pas un robot.
Voilà. C'est intéressant qu'on emploie ce terme robot parce qu'hier dans l'équipe du soir, il y avait Didier Roustan à votre place, Siani, et il parlait de la relation des supporters et de Kylian Mbappé. Écoutez le replay du président avide de l'EDS.
Mbappé, il sera resté 7 ans au PSG et qu'est-ce qu'il aura laissé en 7 ans? Il aura battu tous les records de plein de choses et tout. Mais je trouve que au niveau sentimental, si tu veux, le lien avec les gens, une forme d'amour que tu peux avoir pour des joueurs ou des choses comme ça, eh ben, je crois qu'il laissera beaucoup moins que ce qu'il aurait dû laisser. Et ça, c'est pas innocent. Et pour recevoir de l'amour et qu'il y ait de l'amour, c'est qu'il faut que tu donnes de l'amour, si tu veux. Et je trouve qu'il donne pas beaucoup d'amour.
Intéressant, donc, le président avis de l'équipe du soir sur la relation entre les supporters et Kylian Mbappé. On va d'ailleurs accueillir un supporter tout de suite, c'est Florian, supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir Florian, merci d'être avec nous. Vous avez entendu, je suppose, l'extrait du président Roustan. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que supporter parisien? Est-ce que vous en avez, désolé de le dire comme ça, mais pour votre argent avec Kylian Mbappé?
Tout d'abord, merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Est-ce que j'en ai pour mon argent? Oui, très clairement. Il ne faut pas oublier qui est Mbappé en tant que joueur, que ce soit en équipe de France ou même au Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'on en fait trop des caisses sur Kylian Mbappé sous prétexte que pendant 3, 4, 5 matchs, il n'est pas performant, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il a pu nous montrer dans ses meilleurs moments et dans sa carrière en règle générale. Moi, je pense qu'on en fait trop et je pense qu'il faut qu'on arrête. Moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je suis fier et très reconnaissant d'avoir eu un joueur comme Kylian Mbappé au PSG pendant toutes ces années. Faut pas oublier ce qu'il a fait pour ce club-là depuis qu'il y est. Je reste persuadé qu'on a pris un cap supplémentaire avec un joueur comme celui-là. Maintenant, oui, moi, je l'en veux pas. Il fait 4-5 matchs où il joue moins bien. Je reste persuadé, je vous ai écouté attentivement ce soir, je pense qu'il a la tête ailleurs, je pense qu'il a la tête au Paris Saint-Germain. Et pour répondre assez frontalement aussi, je reste persuadé que la relation Paris Saint-Germain-Mbappé et la relation Luis Enrique-Mbappé ne va pas dans le bon sens pour une bonne conclusion de carrière parisienne pour Kylian. À mon humble avis.
Question d'Hugo Guimet.
Bonsoir Florian. J'ai un problème avec ton intervention parce que je suis d'accord vraiment avec tout ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'évidemment que Kylian Mbappé a permis au PSG de franchir certains caps, qu'il va laisser un souvenir avec tous les records qu'il a battus, les titres qu'il a remportés et les performances très régulières qu'il a eues. Mais est-ce que dire ça, ça nous empêche aujourd'hui, quand on regarde tous les matchs du PSG et tous les matchs de Kylian Mbappé, de nous inquiéter et de dire Kylian Mbappé est en train de régresser par rapport à ce qu'on a connu de lui et notamment dans ce qu'il apporte dans le jeu? Moi, j'ai pas envie que ces statistiques qui sont toujours très bonnes, il y a 40 buts 25% de pénalty, mais c'est quand même de très bonnes statistiques, masque, pour moi, ce qui est une régression dans le jeu, c'est-à-dire que son jeu n'a pas évolué, c'est stéréotypé, il passe moins ses adversaires directs, il est moins foudroyant, moins imprévisible, comme le dit Vedev tout à l'heure, il fait moins les courses pour les autres et il joue les coups pour lui. Donc voilà, je voulais savoir ce que tu en penses en tant que supporter de ça aussi. Il ne faut pas être juste candide et analyser ce qu'il fait sur le terrain.
Non, c'est sûr que quand tu regardes de toute façon le profil de Kylian Mbappé aujourd'hui, est-ce que c'est un joueur qui de toute façon naturellement revient aider l'équipe à partir du moment où on perd la balle? Non, c'est pas un joueur qui revient chercher la balle. Donc moi je reste pour te répondre frontalement, je pense que il y a des choses sur lesquelles Mbappé il changera pas. Il y a autre chose aussi, c'est qu'Mbappé, ça fait des années qu'il est sur le marché du football et que je pense qu'il a été analysé plus que 99,5% de tous les joueurs qui jouent actuellement dans le milieu professionnel. Je pense qu'il y a des gens, des défenseurs et des entraîneurs qui ont commencé à comprendre comment ils fonctionnaient. Moi, je vois les matchs du PSG depuis le début de saison. Les dribbles d'Mbappé depuis le début de saison sont toujours à peu près les mêmes. Donc, à un moment donné, on sait à peu près comment ça fonctionne. Alors, soit il marque un temps d'arrêt, il fait un crochet à droite, et effectivement, il a un coup de rein et une vitesse de pointe qui fait qu'il peut passer énormément de défenseurs. Mais à un moment donné, moi, je vois tout le temps la même chose avec Mbappé aujourd'hui. Ça n'enlève encore une fois rien à ce que je pense de lui, et je remercie Kylian Mbappé pour tout ce qu'il a fait. Mais à un moment donné, non, je pense qu'il a la tête ailleurs. Je pense qu'il n'a plus envie de s'investir et de travailler pour le Paris Saint-Germain. Et on en reparlera quand il sera dans sa prochaine équipe. Je pense qu'on pense tous à la même. Mais là, on verra un autre Kylian Mbappé qui va s'investir, qui va retravailler. Et de toute façon, il n'aura pas le choix. Ouais. S'il veut être au niveau en Liga, il n'aura pas le choix.
Greg, allez-y. Si je vous demande en réponse très courte, Florian. Oui. Comparez-moi la trace qu'il a laissée et celle que Neymar a laissée au club.
Ça sert à quoi?
Bah si. De comparer celle de Neymar et celle de Kylian.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît plus poussé au niveau du sentiment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous...
Alors moi, j'ai un sentiment malheureusement très négatif concernant Neymar. Donc déjà, de toute façon, malheureusement, l'analyse ne va pas être très très bonne. Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain plutôt en vacances que pour continuer sa carrière footballistique, donc j'ai pas vraiment d'avis sur Neymar. Moi, j'ai un amour profond pour Mbappé parce qu'il a bien rendu au club ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il aimait le Paris Saint-Germain, que c'était sa ville. Donc non, pour répondre synthétiquement comme vous me l'avez demandé, Greg, non, j'ai un amour inconsidéré pour Mbappé que je n'aurais jamais pour Neymar, même si je respecte le Neymar de Barcelone.
Question de Dave Apadou.
Ouais, bonsoir Florian. On va rester sur cette thématique, bonsoir. Mais moi je veux creuser sur la trace affective mémorielle. On va continuer là-dessus. Mmh. J'ai bien compris que toi tu apprécies Mbappé, que tu l'aimes beaucoup, etc. Mais par rapport à la valeur de joueur, statistique, le rendement, la permanence dans l'excellence, même si là c'est un peu plus compliqué. Ok, on va tous être à peu près d'accord dessus. Mais il me semble que, par exemple, quelqu'un comme Paoletta a vécu une histoire d'amour avec le public plus forte que quelqu'un comme Cavani, qui pourtant a été assez critiqué au début parce que c'était compliqué pour lui, la cohabitation avec Ibra, a fini par conquérir les cœurs jusqu'à même être le joueur préféré, y compris quand il y avait Mbappé, Neymar, Di Maria et d'autres joueurs qui, mettons, avaient une place dans la hiérarchie supérieure à la sienne. Et je ressens pas ça chez du public. Il y a une admiration, il y a un constat qu'il a été très fort. Je ressens pas cet amour un peu au-delà, charnel presque. Je le ressens pas.
Paoletta a brillé au Paris Saint-Germain dans les années qui ont été quasiment les plus sombres du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on a gardé un regard sur Paoletta comme un sauveur du Paris Saint-Germain et comme un attaquant qui nous a amené. Oui, tout à fait. Il y a Amara Diané aussi, mais surtout, moi, je trouve que sur la globalité, ça reste quand même Paoletta qui. ça reste Paoletta qui. Paoletta, dans le cœur des Parisiens, ça a été un sauveur, ça a été un joueur qui avait effectivement une certaine grinta, qui est sorti du lot, mais avec un effectif beaucoup moins important que celui qu'on a aujourd'hui. Moi, j'ai pas l'impression que les supporters parisiens aujourd'hui donnent moins, enfin ressentent moins d'admiration et d'amour et de passion plus pour Paulista que Kylian Mbappé. Le problème de Kylian Mbappé, c'est que c'est un joueur de classe mondiale qui fait partie, à mon humble avis, du top 3 mondial. Mais il a été, au cours de sa carrière au Paris Saint-Germain, avec des joueurs qui également sont de classe mondiale. Donc, c'est plus difficile peut-être de sortir un Kylian Mbappé du lot dans une équipe qui est de classe mondiale, quoi qu'il arrive, et qui ne fait pas spécialement de grandes performances. Qu'on ne se le cache pas, le Paris Saint-Germain sous l'ère QSI, c'est une finale de Ligue des Champions sous l'ère Covid, où on avait pas de match aller-retour et un tirage au sort assez sympa. Pour le reste, je suis désolé, mais je suis un supporter parisien qui pleure avec ce qui s'est passé depuis l'ère QSI.
Merci beaucoup, Florian, d'avoir été avec nous dans l'équipe du soir.
Pour mardi, parce que...
Je suis pas très bien pour mardi, parce qu'il y a
encore un match à jouer. C'était juste pour vous taquiner.
C'est moche.
Il y a encore un vrai match à jouer.
Bon, merci beaucoup, Florian, d'avoir été avec nous. C'est toujours agréable de parler avec des supporters. Une information, je sais, Guillaume, qui vous tient à cœur, puisqu'on a appris que Kylian Mbappé était parti en Suisse, mon cher Romain.
Exactement. Alors déjà, il faut préciser que c'est sur une journée de repos, ce qui a quand même de l'importance par rapport à ce débat-là. Mais effectivement, Kylian Mbappé est allé faire...
Pas de polémique, Romain. Attention, commencez pas, vous
Kylian
êtes trop
Mbappé
jeune.
Kylian Mbappé est allé participer à une opération promotionnelle pour l'un de ses sponsors, une célèbre marque de montres de luxe. Et donc, il a fait l'aller-retour en Suisse entre les deux matchs face au Barça, donc pour aller faire cette opération promotionnelle avec son sponsor.
Alors, juste Guillaume, est-ce que c'est une sortie...
Non, on me posait pas
c'est anecdotique ou c'est problématique?
Moi, je trouve dommage qu'on parle de ça.
Mais pour quelle raison?
Parce que la vie continue, quoi. Et Donnarumma, parce qu'il a été bidon, il n'a pas le droit d'aller manger au resto ou d'aller voir ses parents.
Non, mais là, c'est un genre de repos, il va où il veut.
Moi, je vous trouve hallucinant. Hein. Je vous trouve hallucinant sur ce plateau.
Ah oui?
Mais vous croyez que c'est innocent? Kylian Mbappé, vous pouvez pas passer votre...
C'est-à-dire que Mbappé, il a appelé Uzo, il a dit si « Organisez-moi vite un truc d'aide, si je peux qu'il me faut... »
Attendez,
si je peux caresser l'espoir de finir ma phrase.
Ouais. Allez-y.
Juste, je caresse ça et après, vous pouvez y aller vous déchaîner. Okay. Moi, ce que je vous dis, c'est que Kylian Mbappé, c'est une machine de guerre. Vous pouvez pas être sur ce plateau et passer votre temps à constater que c'est une machine de guerre qui ne laisse rien au hasard, qui sait exactement qui il est, exactement l'impact qu'il a. Vous pouvez pas penser une seule seconde que ce déplacement, cette saison en particulier, dans ce moment particulier de la saison qui est entre deux quarts de finale, aller et retour aussi rapprochés, avec évidemment le risque que le match soit attendu, le risque que sa performance ne soit pas bonne.
Mais là, il n'est pas parti à Singapour.
Il est en Suisse.
Hein.
Quoi il est en non, mais... C'est une heure d'avion.
Si vous pensez que Kylian Mbappé fait ça et que derrière, il n'y a pas en arrière-plan une espèce d'indépendance de fonctionnement encore plus grande par rapport au PSG, c'est-à-dire que, quand bien même le club l'a mobilisé par rapport à ce rendez-vous qui est capital contre Barcelone, je ne crois pas une seule seconde que ce déplacement soit aussi anodin que vous voulez bien le penser. Mais libre à vous.
Siani, allez-y.
J'aimerais bien savoir ce qu'il peut y avoir derrière un déplacement chez un sponsor en Suisse. C'est pas comme Messi qui était parti, c'était où, en Arabie Saoudite,
contre
la volonté du club et qui avait été sanctionné. Là, je pense qu'il a un accord du club. Je pense, franchement, il est à côté.
Même, il n'a pas besoin d'accord.
Il est sur un jour off. Non mais voilà.
Greg a compris. Vas-y.
Attention, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Siani, terminé.
Si ton employeur t'interdisait de faire un truc sur ton jour de repos, tu deviendrais pas fou. Enfin, je veux dire, tu
mais attends, parce que moi je suis pas Kylian Mbappé, mais fais des gestes. Ils n'ont pas une signification.
Dis-moi la signification.
Non, mais
allez-y.
En plus, j'ai les mêmes réactions que vous. Je dis, il aurait pu manquer qu'on lui mette un bracelet électronique pour qu'il fasse. Mais c'est pas ce que vous dites, Dave. Dave a jamais dit ça, en fait. Il vous dit qu'il y a une part de provocation ou une part de démonstration chez Mbappé. J'en sais rien, mais ça me semble au moins pouvoir être dit sur ce plateau sans qu'il se fasse arracher la tête.
Je veux dire, personne n'a arraché la tête.
C'est comme le fait de s'asseoir. C'est une variante du fait de s'asseoir à Monaco.
Exactement. C'est la même veine.
C'est ça qu'il voulait dire.
C'est la même veine.
Je dis pas qu'il a raison. Et ça m'intéresse. Si, pour moi,
dites-moi le rapport. C'est quoi le rapport?
Il gagne 4-0, il y va, c'est quoi? On fait quoi?
Il gagne 4-0, il y va.
Il n'a pas gagné 4-0.
Et alors, il s'enferme, il n'y va pas.
Mais non,
il
appelle Hublot, il
alors,
va pas.
Alors, tu sais quoi, non, est-ce qu'il appelle Hublot en disant alors, j'ai perdu, j'y vais pas.
Parce que tu crois qu'Hublot se met pas.
Alors, juste par contre, on a pas le droit de citer les marques.
Philippe, Richard Mille,
Rolex,
son partenaire, tu crois bien que cet événement, il est construit pour Mbappé. Si Mbappé n'y va pas, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire.
Si, un peu quand même.
Non, il y a un
souci. Messieurs, ça ne devait pas vous passionner.
Non, non, mais un dernier mot. Qu'aurait-on dit si c'était Neymar qui avait fait ça? Qu'aurait-on dit? Là, vous seriez les premiers à vous sécher les
deux. Neymar, on a râlé sur quoi?
Vous seriez les premiers à le trucider. Quand bien même ce serait un jour off, quand bien même il aurait l'autorisation du club.
T'es malhonnête intellectuellement.
Non, c'est pas vrai.
Sur Neymar? Sur quoi on a parlé sur Neymar? On a dit quoi sur Neymar?
Mais Neymar, dès qu'il se couche tard, vous jetez sur lui.
C'est différent.
C'est sa vie.
À 3h du matin, c'est différent.
C'est sa vie. C'est son temps.
Non, quand t'as une hygiène de vie déplorable, c'est ta préparation visible.
C'est ton temps off. Moi, je serais curieux de savoir ce que les supporters.
Il a sonné.
N'allez pas nous
oublier. Je voudrais savoir ce que les supporters pensent d'un joueur qui a été fantomatique et qui va faire le bleu.
Donc il faut arrêter de vivre. Ce n'est que du foot. Ce n'est que du foot.
Ça sera cette conclusion.
Ce n'est que du foot.
Mais si, c'est que du foot que t'as.
C'est un jeu, c'est que du foot.
Bon allez messieurs, terminé. S'il vous plaît, j'ai même cassé la sonnette. Le journal du Har.
Bien sûr.
De Romain Aran, c'est le minuit info. Tout de suite, on commence par du basket.
Oui, le Paris Basket qui a remporté le premier titre européen de son histoire ce soir avec une victoire dans l'Eurocoupe face à Bourg-en-Bresse. Seulement 6 ans d'existence pour le Paris Basket et donc déjà une victoire européenne. L'Eurocoupe, en fait, c'est l'équivalent de la Ligue Europa. Et donc après la première victoire à domicile face à Bourg-en-Bresse, eh bien les Parisiens sont allés s'imposer à Equinox, la salle des Bressans, 89-81, avec encore un très bon TJ Shorts. Et au passage, les Parisiens décrochent leur ticket pour l'Euroleague la saison prochaine.
Donc Paris a gagné quelque chose en Europe.
Et voilà, ça arrive.
Et bien sûr, bon, il y a la Coupe des Coupes quand même, on oublie très souvent, mais il faut
96,
le dire.
96, magnifique.
Exactement, on l'oublie. On pense qu'au Qatar, au Paris Saint-Germain. Allez, on enchaîne avec quoi d'ailleurs?
L'Asvel.
Parce que en fait, mes fiches, c'est un bazar sans nom. Avec la Suisse, vous m'avez totalement déboussolé.
Ah oui, là, on est parti.
Voilà, et être déboussolé pour un Suisse, c'est redoutable. L'Asvel.
Oui, l'Asvel, il y avait une très belle affiche sur la chaîne L'Équipe ce soir en Euroleague, cette fois la reine des compétitions européennes. L'Asvel contre Barcelone et tout s'est joué dans la dernière minute et l'Asvel a fini sur une très bonne note en battant l'ogre barcelonais qui se qualifie, Barcelone est déjà qualifié pour la suite de la compétition. L'Asvel va terminer avant-dernier, mais voilà, il y a cette belle victoire dans les toutes dernières minutes avec notamment un excellent Geoffrey Lauvergne, 76-72 pour redonner un petit peu le sourire donc à cette très mauvaise saison européenne de l'Asvel qui finit avec 9 victoires en 34 journées, c'est quand même pas beaucoup.
De bon augure pour la saison prochaine.
Exactement.
Eux aussi, ils préparent la saison prochaine.
Et bien évidemment.
On a des entraîneurs qui sont des visionnaires.
Superbe nouvelle de l'équipe.
Incapables de gérer la saison en cours, mais celle de la saison suivante.
Ils anticipent, Guillaume.
Ils sont malins, mais je suis admiratif.
Gouverner, c'est prévoir. Bah,
vous n'êtes jamais content.
Mais non, je viens de dire que j'étais admiratif.
C'est beau. C'est beau l'admiration.
Il est chaud.
Superbe performance de l'équipe féminine de basket de Villeneuve-d'Ascq.
Oui, parce que elles se sont qualifiées, les filles de Villeneuve-d'Ascq, pour la finale de l'Euroleague. En fait, c'est comme la finale de la Ligue des Champions. Mais donc en basket féminin, et c'est une première dans l'histoire du club nordiste qui dispute d'ailleurs le Final Four ce week-end pour la première fois de son histoire là aussi. En fait, elles font un peu figure de petit poussé, les Villeneuvoises, mais elles se sont imposées en demi-finale face à Prague, 84-78, et elles retrouveront en finale le grand favori Fenerbahçe, entraîné par la Française Valérie Garnier. Mais on y croit pour l'exploit.
Vous êtes très fort pour les offres, vous devriez en faire votre métier.
Là, c'est si elle gagne, c'est pas un exploit.
Ah oui, c'est
très premier degré.
Le Fenerbahçe, c'est le Milan AC multiplié par le Real Madrid. Chez les filles, c'est l'enfer. Donc si elles font ça, alors là, on pourra se prosterner. On se prosternera jusqu'à la nuit des temps.
Romain, on revoit les images du succès de Metz face à Lens.
Exactement. En ouverture de la 29e journée de Ligue 1, les Messins qui ont signé une excellente opération dans la course au maintien en battant Lens malgré l'ouverture du score sur pénalty de Sotoka. C'est Georges Mikotadze qui a été le sauveur des Messins avec un doublé magnifique. Vous avez vu cette frappe du gauche et cet enchaînement dans la surface. Et là, vous allez voir cet amour de ballon piqué pour tromper Brice Samba. Donc les Messins qui remontent, en tout cas, enfin non, qui sont toujours 17e, mais qui remontent à hauteur de Lorient. Et Francaise était en conférence de presse juste après la rencontre. On lui a demandé s'il avait déjà vu son équipe afficher autant de suffisance. Sa réponse.
Bah en tout cas, il en a ce quart d'heure de fin de quart d'heure d'après la mi-temps, il en a manqué tellement. D'autant plus que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une semaine d'entraînement de cette qualité. On en a parlé avant le match, d'ailleurs dans la causerie, et que les 25 premières minutes me laissaient pas présager ça. Donc, j'avoue que Oui, il y a eu en tout cas la suffisance, je ne sais pas si c'est le terme juste, un manque d'exigence, un manque de... Oui, il en a manqué, ça c'est évident qu'il en a manqué, qu'il nous en a manqué.
Ouais, toujours aussi bon Francaise en conférence de presse. Une nouvelle qui va faire plaisir à Hugo Guimet, puisqu'un ancien Lyonnais a marqué.
Et oui, c'est en Espagne pour l'ouverture de la 31e journée de Liga avec le Betis Séville face au Celta Vigo. Et Nabil Fekir a marqué le deuxième but du Betis. Regardez, en plus, il est joli. Le crochet et la frappe. Le Betis s'est imposé 2-1. C'est le premier but de la saison en Liga pour Fekir. Il n'avait plus marqué en championnat depuis 14 mois. C'était début février 2023. Donc ça fait plaisir de voir ça pour l'ancien Lyonnais. Bien sûr, il y a les blessures.
Quel joueur. Fantastique. Un coureur français qui est dans la tourmente actuellement, qui s'est imposé, c'est Lenny Martinez.
Oh, il n'est pas dans la tourmente, mais en tout cas, il y a des rumeurs insistantes de départ. Mais il est pas
perturbé. Tout le monde l'accuse de vouloir gagner correctement sa vie. C'est terrible quand même.
On lui propose de faire x10. Aussi.
Tout le monde accepterait, je suis navré.
Il est en fin de contrat.
Il fait ce qu'il veut.
Une position incroyable, j'espère qu'il va y aller dans des équipes.
X10, personne dit non.
Mais en tout cas, il n'est pas dans la tourmente par rapport à son niveau sur son vélo, puisqu'il a remporté aujourd'hui la classique Grand Besançon 12. C'était sur la chaîne L'Équipe. Il s'est imposé au sommet de la côte de la Malade. C'était le lieu d'arrivée de cette classique. Et c'était sur la chaîne L'Équipe. Donc, on revit les derniers 100 mètres de la course avec Patrick Chassé et Pierre Roland en commentaire.
Et c'est Lenny. Lenny qui attaque, Lenny qui contre. Lenny qui s'envole cette fois-ci vers la victoire. L'Angelotti avait peut-être présumé de ses forces. Et la victoire de Lenny Martinez à l'issue de cette quatrième édition. C'est sa troisième victoire de la saison.
Journée qui font combien ?
On va maintenant parler de la balle jaune et on va parler de Humbert. C'est terminé pour lui.
Oui, c'est terminé pour lui, éliminé en quart de finale du Masters 1000 de Monte Carlo. Forcément, c'était compliqué face au double finaliste sortant de Roland Garros, Casper Ruud. Alors qu'en plus, la terre battue, c'est pas vraiment la surface de prédilection de Humbert. Il s'est quand même bien battu face au Norvégien, surtout qu'il a été mené 1-7-0 et breaké dans le deuxième set. Mais il est revenu à une manche partout avant de craquer dans le set décisif qu'il a perdu 6-1. Mais ça restera un beau parcours pour Humbert, qui, on le rappelle, est le premier Français à l'ATP. Il est 15 mondial.
Oh, la remise.
Et ce point encore incroyable de Casper Ruud.
Dev, c'est à peu près pareil quand vous jouez chez vous.
Quand on joue.
Quand on joue ensemble. Allez, maintenant.
Les demi vont être dingues, il y a du lourd quand même.
Bien sûr,
oui, exactement.
C'est du golf, Guillaume, ça vous intéresse.
Évidemment, j'espère qu'on va parler de Mathieu Pavon. Quand même.
Exactement, bien sûr qu'on va parler de Mathieu Pavon, puisqu'en ce moment a lieu le premier tournoi du Grand Chelem de la saison en golf, c'est le Masters d'Augusta aux États-Unis. Et il y a un Français qui s'en sort très bien, c'est Mathieu Pavon. Regardez, il rentre ce putt absolument magnifique pour birdie. Et après, du coup, les deux premiers tours, il est dans le top 10, même si la compétition continue, forcément avec le décalage horaire. Mais il va passer le cut. Il est dans le coup, il n'est pas si loin de la tête. Pour l'instant, c'est Bryson DeChambeau qui est en tête. Mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et là aussi, ce serait une performance totalement historique. Mathieu Pavon, qui est le fils de Michel Pavon, l'ancien footballeur et entraîneur.
Il y a des fils d'eux, ça existe.
Exactement.
C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Il y a 6 Français dans l'histoire qui ont réussi à passer le cut. Il en fait partie. C'est son premier majeur, son premier Masters. Pardon, et c'est exceptionnel.
Performance magnifique. À suivre demain sur la chaîne L'Équipe de la Formule 1.
Exactement, et on aura une double ration de Formule 1 avec 2 courses en 2 jours. Ça se passe à Misano, en Italie. Rendez-vous demain à 14h55 pour la première course. Et on vous promet du spectacle, en tout cas, pour tout un tas de raisons. Et c'est Sébastien Buemi, le pilote d'Envision Racing, qui va vous expliquer pourquoi il y aura du spectacle au micro de Mylène Dorange et de Tom Trichereau.
Ça va être une course un peu atypique avec beaucoup d'économies d'énergie, une piste très large avec des bonnes possibilités de dépasser, donc assez stratégique au niveau de l'utilisation de l'énergie. Donc non seulement il faut se retrouver au bon moment, au bon endroit, il faut avoir la bonne énergie à la fin, mais il faut aussi être capable de pas avoir ce qu'on appelle du derating, donc de la perte de puissance en fin de course. Donc on essaie de manager toutes ces choses-là et j'espère qu'on sera compétitif.
Merci Romain, bravo pour ce Minuit Info. Tout de suite, restez bien sur la chaîne L'Équipe pour la VAR de l'EDS. On va rigoler, on va se détendre, on va jouer aussi. A tout de suite. Retour pour la dernière partie de L'Équipe du soir. C'était une nouvelle fois très animé pendant la pub. Ça vous dérange pas, Greg, que j'essaye de faire modestement mon métier en compagnie de Siani Dalma, de Guillaume Dufy, de Dev Apadou, de Grégory Schneider et de Hugo Guimet. On parlait encore pendant la pub de Kylian Mbappé. Ça ne s'arrête jamais. Et là, on va rigoler, on va sourire, on va se détendre. Tout de suite, on accueille Hugo Andréani pour la VAR de l'EDS. Hugo, vous pouvez rentrer.
Entre ici, Hugo.
On rigole, mais bon, faut quand même être un peu sérieux. D'ailleurs, je vais être obligé, Giovanni, désolé, de commencer avec un carton jaune pour deux membres de l'équipe.
c'est Dave et Greg. Hein. Je suis navré, mais c'est quoi cet accrochage en début d'émission? C'était terrible. Bon, on va regarder ça, de toute façon. Deux cartons jaunes pour vous, on y va.
La réponse de Dave Apadou.
Oui, parfois, faut apprendre à faire le deuil. Parfois, faut apprendre les maths aussi. Il reste 5 journées pour les Lensois et non pas 6.
Vous votez pour Dave Apadou.
Il est outré,
mais non.
Non, mais pas par ça.
Il est pas content. Ah, pas par ça. Ah, bon. Par la remarque sur les maths, je suppose. Non, mais ça sera pas le débat.
Peu, mais non.
Si vous pensez que...
On peut dégainer les diplômes, mais on va s'amuser 5 minutes.
Ah, mais ça... Tous en même temps.
C'est pas comme si j'avais pas une maîtrise d'économétrie quand
même. Mais pas de soucis. Voilà. Alors, pas bon, une maîtrise d'économétrie pour terminer l'équipe du soir, il y a un truc qui a merdé à mon donné. Quel boulard, c'est incroyable. Et je comprends pourquoi vous parlez bien de Kylian Mbappé. Vous avez un point commun, la modestie.
Je crois que c'est bon, parfait de siffler le coup d'envoi de la VAR de cette semaine. On y va.
Et cette semaine, événement exceptionnel puisqu'on a reçu Pierre Lescure et Pierre, il était ravi d'être là.
Pierre, on vous accueille. On va juste faire un petit CV, hein, tranquillement, parce que vous avez...
Oui. Non, faites-le, je cours, ouais. Parce que sinon... Ah oui. On a fait...
Et oui, hyper heureux. Heureusement, Mémé a su créer une complicité avec lui.
Et le pire joueur, le plus gros échec de recrutement sous l'ère...
J'ai oublié le nom d'un défenseur brésilien.
Geraldo.
C'est ça. Et oui, regardez comme ils ont l'air heureux. Du coup, forcément, en fin de match, il y avait plus de complicité, non?
Mes amis, c'est déjà terminé. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir passé 2 heures avec nous. C'était charmant, c'était bien, c'était magnifique, c'était intelligent, c'était du Pierre Lescure. Tout va bien?
N'exagérons rien. D'accord.
Ah oui, allez, sans transition, c'est le moment de siffler le roustan additionnel. Retour sur la semaine de Didier. Alors, on démarre avec le retour du Didier chanteur. Il a voulu rendre hommage à Pavarotti. Le problème, c'est connaître les chansons de Pavarotti, forcément.
C'est élégant, c'est pas... Oui, comme Pavarotti, tu vois, je protège un petit peu ma gorge parce que quand tout partira. Non, c'est pas lui. C'est monsieur qui a bug, Bocher. Andréa Bocher. Andréa
Bocher. Eh oui, belle voix, bel hommage, mais le plus bel hommage de la semaine, c'est Didier, l'amoureux des belles cheminées.
Pourquoi ce feu de cheminée? Non, on est fâché de Giovanni Castaldi. Mes amis, regardez ce qui se passe. La cravate feu de cheminée Didier fait fureur sur les réseaux sociaux. En top tweet, la cravate
des gens qui ont du goût dans ce pays.
Et pour terminer le roustan additionnel, comment ne pas conclure avec son livre Puzzle qu'il offre à tout le monde, n'est-ce pas Giovanni?
J'allais lire votre Wikipédia.
Il y a des mélanges.
On écoute Jean-Louis Gasset.
Puzzle.
On me l'a même pas offert.
Mais Karine là.
Allez, oui.
Alors je veux dire, tu peux pas demander à Karine que je te prête.
On va écouter à Jean-Louis Gasset qui parle
de donner et au mec et à la femme et aux enfants et aux chiens. Ça suffit pour la famille.
En espérant que depuis
le problème, c'est que Didier, il a pas les bonnes infos là. Il a raté un train. Il
nous donner. On boostera plus tard alors.
Là, c'est raté un wagon. Bon, on continue avec les situations qui ne méritent pas de carton. Mais ça permet juste de constater que des joueurs de l'équipe du soir sont complètement à côté de la plaque. C'est le hors-jeu de la semaine. Et on démarre les hors-jeux de la semaine avec Giovanni, car on a appris que vous connaissez bien Lisbonne.
Excellente soirée à vous du côté de Lisbonne. Et rentrez tôt, la nuit peut être mouvementée à Lisbonne. Voilà, il y a beaucoup de bonnes adresses.
Tout le monde n'est pas comme vous, Giovanni.
Et oui, allez, niveau hors-jeu, il y a aussi Virginie qui avait un message pour la direction.
Toujours très compliqué ces débats, parce qu'on veut tous gagner plus d'argent. Vous aussi, Virginie, je suppose.
Bien sûr,
comme tout le monde.
Et cette semaine, à la VAR, on a dû faire face à des situations jellicites. C'est les moments où Nabil Jellit est complètement hors-jeu face à lui.
Ouais, je me suis refait une coupe avant d'arriver. Mais par contre, on n'avait pas dit que c'était une heure sans pub. Parce qu'en général, c'est comme quand je prends l'avion. Voilà.
Oula. Moi, j'attendais une soirée.
C'était juste un mauvais contrôle de balle. On recommence, Nabil.
Sur le calendrier, déjà le prochain, ils vont au Havre.
Bah, c'est Akita ou double. Akita ou double.
Ils sont en égalité.
Il y a un entraîneur, un derby.
Allez, jamais 203, Nabil.
Les Alpines ne sont pas arrivés, me dit-on dans l'oreille.
Je crois que ça fait 15e et 16e.
C'est vraiment au max.
Il y a eu deux grands moments dans.
Pas mal, pas mal. Nabil, c'est que vous entrez dans votre chute, vos coéquipiers, notamment Greg Schneider.
C'est plus facile de recevoir et de gagner. C'est beaucoup plus facile.
Ça m'excétère pas trop.
Oula.
Non, c'est pas le temps, mais ça mérite un rouge direct.
Voilà. Et pour conclure leur jeu de la semaine, nouveau jeu à la VAR, vous pouvez jouer chez vous. Je me suis amusé à mettre un coup de sifflet au hasard dans une phrase de l'émission. Du coup, ça change un petit peu le contenu, vous allez voir.
Et là, si je fais fausse route, Étienne, comme d'habitude, petit track sur les... j'ai l'impression que Louis-Henri...
Oui, voilà, c'était un mot caché, je vous laisse deviner. Je sais pas si vous l'avez, c'était toi. Vous l'avez pas le...
Non, je l'ai pas.
Bon, je crois que ce jeu a pas fait un franc succès.
Non.
Ça arrive.
Il faut essayer. C'est pas grave, j'ai essayé. Bon, en tout cas, on va enchaîner avec des fautes. Peut-être comme je viens de faire, une faute qui mérite un carton rouge. C'est les jeux dangereux de la semaine.
Nantes-Monaco ? C'est pas Monaco, Nantes, hein, Nantes-Monaco.
J'étais déjà abonné.
Ok. Ah oui, j'étais déjà, oui.
Mais bien sûr.
Ouais. Vos parents, peut-être, non ? Non, vous-même.
Mes parents aussi, mais j'étais déjà abonné.
Ah d'accord, vous avez un certain âge. Président, vous êtes de droite ou de gauche sur cette question, évidemment. Hein, c'est une question sportive.
En tant qu'ancien footballeur, normalement de droite.
Vous trouvez que ça, ça défend bien.
Non, tu
trouvez que c'est.
Abordé déjà.
Ouais, mais je crois qu'on était en pub, mais.
C'était bien.
Non,
c'était
mais oui, en fait,
moi, j'ai le meilleur cas.
Je trouve très bon pendant les pubs.
On dit pareil de toi depuis 15 ans.
Sur une belle passe en profondeur d'Amin Harit, le Gabonais ouvre son pied au dernier moment pour tromper Turbine. Benfica l'emporte 2 buts à 1.
Merci beaucoup, magnifique. C'était parfait, toujours.
Tu étais un peu en retard au niveau ouvre son pied, ça fait 20 secondes qu'il a ouvert son pied.
Oh. Il avait fait une communication à la Kylian, toujours direct, franc, machin, cash, tout ça.
Si c'est pas caché, on a quand même eu un peu de mal à le trouver.
Oui. On marque une petite pause, qu'est-ce qu'il y a, Bertrand ?
J'aurais aimé dire un mot.
Tu parleras à la pub, c'est tellement intéressant.
Je suis frustré du résultat pour les Parisiens.
Il n'est pas frustré, il n'est pas énervé, il est frustré. Voilà,
Mais il ne répond pas à la question, il est hors sujet comme d'habitude.
Elle était gratuite celle-là, Joe.
Oh, mais c'est Bernard Lyons. Bon, il a beaucoup de rancœur, son club est en Ligue 2, on comprend.
Et pour conclure, quel joueur de l'équipe du soir va être suspendu cette semaine ? C'est la commission de discipline. Et pour un match de suspension, c'est Olivier Rouillet qui voulait absolument parler.
Que Mbappé n'ait pas été bon, c'est un fait, mais c'est un micro-débat par rapport à l'incidence de Luis Enrique sur le nom-match.
Le problème, c'est que quand il parle, il se passe ça.
Ce débat autour de la pipe était très intéressant. Voilà. On va maintenant se recentrer sur.
Il faut que ça soit des deux côtés. Les
pipes. Oui, bien.
Excellent. Ah
ouais.
Excellent.
Ouais. On va parler juste de Lille quand même. Olivier, vous êtes.
Possible d'avoir les pieds bien placés comme ça.
Je sais bien qu'il est tard avec les enfants dorment, mais un peu de décence.
Vous n'avez pas le droit.
Allez, un match de suspension, le temps de régler cette histoire de pipe. Et puis pour deux matchs de suspension, c'est Jomicou qui a quitté le terrain en plein quiz.
Foden.
Comment ?
Foden,
ouais.
Non, je dis un peu.
Ah, Ludo, on me dit que c'est Ludo. C'est Ludo qui a le gagné.
Sérieux, quand même.
Ludo.
Ah, on me dit que c'est Ludo.
Ludo.
Je le dis avant, j'ai
dit. C'est Ludo.
Il s'en va.
Heureusement, il est revenu, mais toujours sans ses amis, le fair play et l'honnêteté.
Ouais.
Aguero,
4 points pour tonton Ricky.
Il a dit.
Mais oui, mais ça sort là, ça sort.
Et oui, malgré ça, Joe a gagné. Il a continué à être 100% honnête.
Je suis champion du monde.
Alvarez,
3 points supplémentaires.
Modeste.
Deux matchs de suspension, le temps de se calmer. Et puis pour 3 matchs de suspension, c'est Raymond Domenech, alias le gars qui connaît l'équipe du soir.
Président, deux oui, deux non.
Ça fait 2-2. Hein.
Et je crois qu'on a donc
On peut débattre.
Ouais, et donc on
débattons.
Un super duel, c'est parti.
sinon, Raymond, vous connaissez l'émission parce que ça s'appelle Super Duel.
Et oui, non, il connaît l'émission, Raymond, c'est juste une simple erreur.
C'est parti, et un super duel royal même. Dave et Guillaume, pour Greg et Nabil, non. Vous avez
qu'est-ce qui fait qu'il est royal?
Parce que
ça n'a pas
vous connaissez vraiment pas l'émission, Raymond.
Et vous allez voir, c'est de mieux en mieux, Raymond.
Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Si vous connaissez l'émission, mon cher Raymond, c'est donc
Un débat.
Et puis vous l'aurez compris, Raymond, c'est pas le crampon le plus pointu de la chaussure.
Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Vous connaissez déjà l'émission, mon cher Raymond. C'est
oui, oui, c'est un grand débat.
Et un grand débat.
Allez, 3 matchs de suspension et puis un protocole commotion pour Raymond. On sait jamais.
Ouais, merci beaucoup, Hugo. Merci à tous pour cette belle soirée. Restez bien sur la chaîne L'Équipe toute la nuit déjà, mais surtout demain parce qu'il y a un gros programme. À midi 10, il y a le Tour du Jura, c'est du vélo. 15h de la Formule E et puis à 19h, match de Ligue 2. C'est Bordeaux, Bastia. Excellente nuit, bonne soirée à tous.